Excellent après-midi à tous. Avant de retrouver en 2011 en studio Laurent Ruquier et toute sa bande pour de nouveaux délires jusqu'à 18h, on finit 2010 avec le meilleur dont on va se gêner sur Europe 1, bien entendu.
Daniel Soulier vient de publier un livre sur le Louvre. Le Louvre pour les nuls, vous savez, c'est dans la fameuse collection, on aime bien ça. Par exemple, les mathématiques pour les nuls, la chanson pour les nuls.
La bourse pour les nuls.
La bourse pour les nuls.
Attends, Christine Bravo, elle a quoi? Les tueurs en série pour les nuls? C'est ça?
C'est pas une blague, c'est pas une blague. Non, la médecine médico-légale.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
C'est pas les tueurs en série.
Ouais, non, mais bon, ça va ensemble.
Pardon, le Louvre pour les nuls, on apprend qu'il y en a 666. 666.
Le chiffre du diable.
Oui, en plus, le chiffre du diable. Je me demande d'ailleurs si c'était pas déjà dans le Da Vinci Code, cette affaire.
C'est dans tout le 666.
C'est des toilettes?
666 toilettes au Louvre?
Oui.
Donc, alors, il faut.
Il y a des visiteurs.
Je sais bien, mais enfin, quand même.
Bon, alors, des systèmes d'alarme?
Il n'y a pas 666 Joconde, ça se saurait.
Donc, ça saurait. Ça ferait pas mal de minutes.
Des clés.
Des faux tableaux, des faux. 670 faux.
Non. Gardiens, des gardiens. 666 gardiens, non.
Alors,
des tableaux, des œuvres.
Non, il y en a plus.
Des statues
non plus.
Mais non, c'est pas des œuvres.
À mon avis, on peut tenir un moment avec
des fenêtres,
piliers.
Des fenêtres.
Oui.
Pas tout à fait des.
Alors
fenêtres.
Des vitres, des sur la pyramide, des plaques de verre là, des vitres.
Sur les carreaux de la pyramide. Bravo, les plaques de verre. Quand vous savez ça, vous les avez comptées, Christine?
Mais non, mais pas du tout. Mais quand j'ai dit fenêtre et que je t'ai vu tout fébrile, là, je me suis dit...
Non, fébrile, ça, je le suis dit ce matin, de toute façon. Non, mais alors, attendez, c'est fou, ça.
666 insultes au génie français.
Non, ça y est, il va remettre ça. Ah, il va remettre ça avec la pyramide de
Après, on relance sur Buret.
On peut peut-être trouver un autre sujet. Vous faites les carreaux régulièrement, Christine?
C'est vrai,
ça, vous faites vos carreaux vous-même?
Ça m'arrive, ouais, j'aime bien. Plus,
c'est vrai,
ça fait du sport. Et à mon âge, on a, vous savez, cette partie du bras, là.
Qui pend.
Elle pend pas. Mais bon, pour pas pendre, en tout cas,
c'est
faire vrai, les
c'est,
carreaux.
C'est pratique pour essuyer cette partie du corps.
Avec quel produit vous faites vos vitres?
C'est un peu de la peau de chamois, quoi.
Alors, c'est formidable, vous prenez. Alors là, vous allez pas vous ruiner en produit, les filles.
Madame Truc vous parle.
Ah oui, papier journal.
Ouais, c'est ça,
vous chiffonnez votre journal et vous mettez. Vous pouvez, bon alors évidemment c'est un peu gras, vous mettez un petit peu de vinaigre blanc, papier journal,
très
vous avez des vitres magnifiques, ça coûte pas un rond, papier à la poubelle, recyclable,
et vous avez
arrêté d'acheter des merdes grandes surfaces.
Allez, super cette nouvelle rubrique. Hein.
Pierre, faites les vitres vous de temps en temps.
Oui, je fais les vitres, J'ai une tête à faire les vitres, mon sérieux. Hein? Nerveuse comme je suis.
Pierre, c'est difficile à pas savoir où est le disjoncteur chez lui, tu sais.
Le quoi?
Disjoncteur.
C'est quoi le disjoncteur? Non, mais je veux dire, il y en a dans les pays civilisés, disjoncteur. Bah, c'est un truc d'ouvrier, là, où ils font des trucs avec les fils électriques. Ouais. Mais je ne touche jamais à ça.
Ah, bah, tu vois, voilà, c'est ce que je disais.
T'es pas un vrai pédé comme moi, toi. T'as un côté homme, toi, tu vois.
C'est ça
qui me plaît pas en toi.
Comme dit souvent dans mon quartier.
Et vous, Christelle Chollet, vous êtes une bonne femme de ménage?
Oui, très bonne, oui. Alors là, je sais tout faire. Mais c'est vraiment. Ah oui, oui.
Les carreaux aussi, faut.
Ah, les carreaux, comme Christine.
C'est pas facile, les carreaux.
Non, c'est vraiment pas facile.
Ma mère, elle disait toujours, je fais les carreaux, il va pleuvoir.
C'était vrai.
T'es optimiste, ta mère.
Ben oui. En même temps, t'habitais où?
Ouais, c'est ça.
On faisait les carreaux tous les jours, non?
Ça, c'est chiant de faire les carreaux, parce qu'il pleut, après tout est en l'air.
Ah non, parce que la pluie sur un carreau bien astiqué, hein, et ben la pluie, elle glisse.
Ouais, vous avez jamais fait les carreaux, alors ça,
j'ai jamais fait les carreaux, moi. Non. Moi, j'ai jamais fait les carreaux. Ma mère m'obligeait à faire les carreaux 3 fois par semaine devant mes copains. Elle mettait un tablier.
Quelle humiliation.
Non, mais c'était terrible. Est-ce que ta mère avait une tête de loup ou pas?
Quoi?
Une tête de loup.
Pour aller chercher les araignées.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une tête de loup.
Si, c'est un truc.
Mais où?
Est-ce que j'ai une gueule à m'appeler Romulus? On l'appelait d'un autre nom que celui sous lequel on la connaît maintenant quand on la voit dans Télématin. Il s'agit de Julie Férez. Mais la dernière fois qu'on avait parlé d'elle, elle ne s'appelait pas Julie Férez. Elle avait le même prénom, mais ce n'était pas Julie Férez.
Elle s'est mariée?
Non.
Non, non.
Qui est Julie Férez?
Karen Cyril.
Non, pas du tout.
Elle porte le même prénom, il a dit.
Elle s'appelle toujours Julie.
Elle est présentatrice.
Julie Leclerc.
Non, pas non. Julie Leclerc est toujours sur Europe 1 tous les matins avec Marco. Mais Julie Ferrez, on peut la voir dans Télématin comme chroniqueuse depuis peu de temps.
Uh-huh. Et elle faisait autre chose.
Et la dernière fois qu'on a parlé d'elle dans cette émission, elle s'appelait pas Julie Ferrez, elle s'appelait Julie...
Julie.
C'est un nom très connu.
Je ne vous demande pas forcément qu'est-ce comment elle s'appelait, mais au moins ce qu'elle
c'est
fait.
C'est un surnom qu'elle avait.
Bon, elle était déjà connue.
Alors. Julie Jolie.
Elle est coach de sport.
C'est-à-dire
c'est la coach de Sarkozy, Julie Périnée.
Julie, pas Périnée, c'est pas son nom de famille.
Mais non.
Mais c'est une bonne réponse de Titoff, en tout cas. Julie Imperiali, elle s'appelait à l'époque. Quand on avait parlé d'elle, elle avait, ça avait beaucoup fait jaser. Hein. Elle avait donné, évidemment...
Des détails.
Bon, enfin, je crois qu'elle s'était fait piéger par un journaliste, hein, je dois dire.
Comment piéger ? C'est très important, la gymnastique du périnée. Non.
Ce que je veux dire, Claude, par là... Si vous me laissiez terminer mes phrases... Si vous me laissiez terminer mes phrases et mes arguments, vous ne seriez pas sans cesse en train de râler et de protester. Je suis juste en train de dire qu'elle essayait, certainement la pauvre s'est faite interviewer à l'époque, on a dû lui demander quelle était sa spécialité, elle a dû dire le périnée, patati patata, elle a fait trois quarts d'heure sur le périnée, puis à la fin on a dû lui demander, et alors qui vous entraînez, quels sont vos clients, paf, elle a dû en balancer 10, lesquels il y avait Carla Bruni, on sait comment ça se passe, et Nicolas Sarkozy, elle s'est retrouvée le lendemain avec un gros titre, Carla Sarkozy et Nicolas, fou du périnée, j'en sais rien, enfin vous voyez, et total, ça a fait tous les bruits pendant 15 jours, je crois même qu'elle s'est fait un peu
sermonner,
je crois.
Mais je comprends bien, mon chéri, mais ce que je voulais dire, c'est que tout le monde a rigolé. Mais il n'y a pas de quoi rigoler. C'est extrêmement important, le périnée. Il faut s'exercer. C'est enfin, et si vous voulez que je vous explique comment.
Allez-y,
Je vais faire. À n'importe quelle station d'autobus, ouais. Au volant de votre auto, dans, chez
à
vous,
radio,
assis. Assis. Bah tiens, je suis en train de le faire.
Arrête, ça excite les auditeurs.
Non, elle est folle.
Non, mais il y a moyen.
On peut avoir une crampe.
Écoutez, c'est très important parce que ça empêche d'avoir, ça empêche de faire pipi quand on ne veut pas, quand on est vieux.
Oui, ouais. Mais
ça, c'est comme ça, on n'est pas incontinent.
Mais t'as pas des crampes à force?
Non, tu te muscles. Et c'est très important quand on devient vieux. Ah. Parce que quand on devient vieux, on peut avoir
des... Quand on devient vieux, rien n'est important.
Très important, au contraire.
Il y avait Olia, je sais pas quoi.
Qu'est-ce qu'il raconte?
La nouvelle culotte anti-fuite.
C'est pas Veolia.
Veolia,
c'est Veolia.
Qu'est-ce qu'il y aura nouveau sur les scènes de crime, sur les lieux de crime?
Alors, je crois que j'ai entendu, c'est par rapport aux reconstitutions.
Voilà.
Avant, c'était des policiers qui endossaient le rôle du criminel, en fait, pour reconstituer la scène. Ah. Et maintenant, ce sera des intermittents du spectacle.
C'est vrai, t'as raison.
Mais c'est la vérité, non?
Non, c'est pas ça.
Mais ça, c'est génial.
Mais,
c'est
pas mal. Mais c'est vrai.
Ah, moi, si je peux faire Francis Holmes pendant 3 semaines, ça va plaire. Hein.
Ah non, toi, tu ferais Guy Georges.
Okay. Il va y avoir des castings pour ouais, je veux faire Fournier. Non, ça c'est terrible.
Il a raison, c'est pour de vrai.
Non, excuse-moi, t'es pas dedans. On t'arrête en pleine scène du crime. Non, t'es pas dedans, là, recommence.
Ouais, rends-moi
le personnage. Avec Jean-Luc
en pleine scène de viol, t'es pas dedans, là. Ça n'a aucun rapport.
Donc, c'est la scène de crime.
Alors oui, sur les lieux du crime.
On va mettre des rubans comme aux États-Unis.
C'est pas au moment de la reconstitution, hein. C'est au moment, c'est juste après le crime quand la police.
Quand la police arrive.
Il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qu'a indiqué hier la préfecture de police.
Ah, on fait passer les alcotests à la police.
Non.
On va mettre des rubans comme aux États-Unis dans les séries.
Oh oui, c'est mieux avec des rubans.
Ah, oui, c'est joli.
Mais quand vous offrez un crime, mettez un ruban autour. Ouais,
oui. Des petits numéros, tu sais, sur les indices.
Et tu fais l'empreinte à la craie.
Oui, j'adore.
Mais on est fous là.
Oh, les tueurs en série,
putain. Les psychopathes, d'accord. Donc, est-ce que ça concerne les flics eux-mêmes? Ou les juges?
Non, c'est plus proche des flics, oui. Pas directement, mais indirectement.
Alors, ils n'ont plus le droit d'être armés?
Non.
Non, c'est les médecins médicaux, là.
Non.
Les légistes?
Non.
Ils n'auront plus le droit de faire des photos perso?
Non.
C'est pour mon album.
Ah, c'est gore. C'est pour mes enfants.
Mais c'est mon blog.
Non, c'est très particulier. Vous allez voir, vous allez être surpris. Je crois qu'on en avait déjà parlé ici il y a plusieurs mois, mais ça y est, c'est effectif chez nous en France. La préfecture de police en a décidé ainsi. Désormais, sur une scène de crime, sur un lieu de crime, les policiers arriveront
Et est-ce qu'il se passe, est-ce que ça se passe déjà aux États-Unis?
Je n'en sais rien. J'avoue que j'ai jamais vu.
C'est lié à des crimes particuliers, des meurtres?
Non, c'est pas lié au crime. Je vous ai dit que c'était indirectement lié à la police. Bon, quand un policier arrive sur une scène de crime, alors il y a quoi? Sur
il y a un mort.
Ouais.
Un témoin, par rapport au témoin, peut-être.
Il y a des témoins.
Il appellera le commissaire et pas le juge.
C'est-à-dire?
Et tu sais que dans les feuilletons, ils appellent Cordier le commissaire et Cordier le juge.
Qu'est-ce qu'il dit?
J'ai vu un documentaire.
Désormais, Pierre Mondy devrait être présent sur toutes les scènes de crime.
Voilà, c'est ça. Non. Mais pas le juge.
Aucun rapport avec Pierre Mondy, Claude.
Est-ce que ça a un rapport avec la tenue?
Oui.
Ah donc, ils auront plus de brassards ou ils auront...
Mais c'est pas les policiers directement, je vous ai dit.
C'est les voitures de police.
Pas les voitures.
C'est les chiens policiers. Civières.
Les chiens policiers.
Et ben quoi?
Et ben alors quoi?
Ils auront le droit de venir avec des chiens policiers.
Ça, ils viennent déjà avec des chiens policiers.
Ils auront un brassard.
Non.
Ils auront pas de collier.
Non.
Ils auront pas le droit de lever
la
patte.
Ils sont à l'aise.
Ils auront pas le droit de pisser sur les indices.
Oui.
Non.
Ils auront un gyrophare, les chiens.
Non.
Il y aura des maîtres chiens.
Non.
C'est bien les chiens.
Oui.
Ils vont changer de chien.
Non.
Non, plus droit à un bout du cadavre.
Non.
Quelle horreur. Va chercher ton os.
Va chercher ton ananas.
T'imagines le clébard, il a enterré le cadavre.
Le clébard.
Non, on se rapproche, hein.
Oh non, mais attends, il est fou.
Ils auront des muselières.
Non. Ça, une muselière pour un chien, c'est assez classique.
Ils n'ont pas le droit de tirer la langue. Parce que c'est manque de respect.
Ça sera des chiennes, uniquement des chiennes.
Non.
Est-ce qu'ils seront équipés de quelque chose?
Oui.
Ils auront un petit tonneau de rhum?
Non.
Il y a Claude qui va faire semblant de mourir.
Les chiens seront équipés de quelque chose?
Oui, les chiens policiers. Oui.
Ils auront peut-être quelque chose sur les pattes pour pas...
Des gants?
Enfin non, des protections sur les pattes.
Les chiens policiers seront désormais équipés de chaussettes, a indiqué hier la préfecture de police. Bonne réponse collective.
Ouais.
Eh ouais! Parce qu'évidemment, ça a éliminé parfois des
Oui, en même temps, on pouvait pas le confondre avec l'empreinte de Fourniret, hein, une patte de chien. Si c'était un chien qui marche, ah oui, mais c'est vrai, dans une grosse flaque de sang, tu mets une patte de chien.
Tu la reconnais.
Mais oui, tu reconnais que c'est un chien.
Enfin, voilà, maintenant, il y a un nouveau marché, parce que ça n'existait pas, la chaussette.
Oui.
Mais je croyais que quand on mettait des chaussettes, ils arrivaient pas à marcher, les chiens.
Je dis ça, moi, c'est pour votre site internet.
Qui marche bien, d'ailleurs, mon site internet. Grâce, notamment à vous, Laurent.
C'est vrai, vous pourriez tricoter des chaussettes
pour
chiens.
Oui, mais j'y ai pensé. Je vais me lancer dans le business pour Chihuahua aussi.
Ah ouais, ouais.
Non, mais ça,
c'est
pas Chihuahua.
C'est vite fait une chaussette pour Chihuahua. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et c'est fait.
C'est mignon. Non, je vais faire des petites casquettes et tout. Mais c'est
des
une
casquette
ouais,
pour Chihuahua.
Pour Chihuahua aussi.
Ça
mimi,
alors.
Mais...
C'est ça. Ouais, vous voulez que Michel Lac passe pour les essayages?
C'est la même taille, c'est bon.
Il a une trop petite tête.
Non, c'est curieux quand même, des chaussettes pour chien, non?
Non, mais c'est vrai. Je croyais que quand on mettait des chaussettes, à la spécialiste des animaux peut parler, mais à un chien, il perdait le sens du sol et il perdait l'équilibre.
Ouais, il a besoin de sentir du dur sous les coussinets pour...
Donc on va avoir juste des chiens qui se cassent la gueule sur la scène de crime.
Qu'est-ce que... Oui.
C'est super. Dans la flaque de sang, il va se rouler.
En tout cas, les chiens sauront ce que c'est de marcher dans la merde quand ils devront laver leurs chaussettes après.
Vous avez fait l'Inde, vous, Pierre, déjà?
Pardon, j'ai fait l'Inde.
C'est immense.
Oui, j'ai fait l'Inde et j'ai pris des clichés. Hein. J'ai fait l'Inde. Non, mais je veux dire, on vit dans un milieu extraordinaire.
J'ai fait l'Inde.
Oui, je suis allé en Inde, évidemment, comme tout le monde, oui. J'allais en Inde pour apporter les pashminas aux enfants. Quoi,
enfin, oui,
parce que sans ça, à part les fakirs, il y a rien de tout. Beaucoup de misère, hein? Beaucoup de misère. Moi, je déteste ça parce que tu commences à donner à un mendiant, on va donner à tout le monde. On va donner de l'argent à toute l'Inde, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, je disais les Indes. Hein.
Oui.
À l'époque, on disait, est-ce que vous avez fait les Indes? Non, mais quel plouc.
Bah, ça se dit, vous avez fait l'Inde.
Non, vous avez fait l'Inde. Vous avez été
par
Inde.
Exemple, Gandhi, il a fait l'Inde.
Oui. Ah oui, d'accord. Dans
d'accord.
Ce
pour Gandhi, c'est une bonne question.
Mais je vous compare un peu à Gandhi.
Pour le reste de l'humanité, non. Il était gentil, Gandhi. Hein.
Ah, ben.
Il couchait avec sa petite nièce.
Ah non, mais ça
Pédophile et compagnie.
Ah oh, non.
Du Falco à côté, c'est rien.
On pouvait pas dire ça, et c'est lui qui a baptisé la fille
oui,
de.
Non, c'est pas moi ah, qui l'a, m'a pas baptisé, non.
Non, il a baptisé Christine, enfin la fille Christine.
Il m'a marié.
Vous l'avez fait là, de vous-même, Christine, alors?
Non, jamais, jamais.
Et vous, Titoff, vous n'êtes pas un grand voyageur, vous, Titoff.
Ah, si, 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 contrairement
à. Il est déjà venu à Paris.
J'ai beaucoup voyagé, mais sans bouger de Paris. Non, non, si, si, mais j'ai pas fait l'Inde.
C'est vrai, on vous voit pas à l'étranger. On vous entend jamais parler d'un pays étranger.
Je suis discret.
Ah, vous avez fait quoi comme pays étranger, Titi?
J'ai fait.
Il n'a pas d'argent.
Les voyages, c'est pas pour les clochards, les voyages. C'est pour les possédants, les voyages, c'est pour des gens.
Je suis pas un grand aventurier au niveau aventure. Quoique, non, 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 je me suis retrouvé dans des voyages ouais. bien, on va dire, très trépidants.
Oui, il a fait la Ciotat.
J'ai fait la Jamaïque, j'ai fait.
La Jamaïque.
J'ai fait
Bandol.
Sac à dos et compagnie.
J'ai fait Cassis. Les Caraïbes. Toute l'Europe, j'ai fait l'Egypte.
L'Egypte,
ben ouais.
Sandec.
Je vous conseille la Suisse pour les horloges, ça vous fera du bien. On a vu la première en 1881. Il y en a 145 000 en France et il y en a même maintenant des nouvelles. De quoi s'agit-il?
1881.
On a vu la première en 1881. Il y en a 145 000 en France et il y en a même des toutes nouvelles.
C'est une bête?
Non.
Une voiture?
Non.
Une est-ce fleur?
Que est-ce que c'était le 24 juillet 1881?
Pourquoi le 24 juillet?
La loi du 24 juillet 1881.
Défense d'afficher.
Défense d'afficher.
Ah non, non, aucun rapport.
Elle en a beaucoup plus.
Non, c'était l'exposition universelle de 1881.
Elle était où, cette exposition universelle?
Ah bah, Paris.
À Paris.
À la Tour Eiffel. Quoi? C'est un rapport avec la Tour Eiffel?
Non, non. Non.
Ah, il y en a 145 000.
145 000.
Partout dans le monde.
Alors, il y en a moins qu'avant, hein, parce qu'il y en avait, il y en avait quand même 290 000. En 96.
Des pissotières.
Et il n'y en a plus que 145 000 en France aujourd'hui.
C'est pas ça. C'est pas des pissotières.
Pas des pissotières, mais presque.
Ah, des Fondamoilas.
Non.
Alors.
Des urinoirs.
Alors, des colonnes Maurice.
Non.
Des urinoirs.
Des cabines téléphoniques.
Des cabines téléphoniques. Bonne réponse, le Titoff. Et oui, il y a des nouvelles cabines téléphoniques là qui viennent d'apparaître.
Avec Internet et tout.
La mais comment se fait-il?
Comment ça?
Comment se fait-il qu'il y ait des cabines téléphoniques nouvelles, étant donné que tout le monde a, enfin la plupart des gens, même les pauvres ont un portable.
Mais non, les touristes étrangers utilisent beaucoup les cabines téléphoniques.
Ah oui, c'est pour toi, effectivement.
Mais oui, non, mais ça c'est très bien expliqué. 60% des utilisateurs de cabines ont déjà un téléphone portable. Mais les études montrent que les cabines sont utilisées par les personnes qui n'ont pas d'abonnement téléphonique, par les touristes et par les étrangers qui appellent leur pays.
Ou les Français qui appellent leur banque en Suisse.
Ou les amants.
Pour dire, on fait quoi?
Les demandes de rançon.
Ou les amants?
Oui, les amants. Quand tu veux pas te faire gouler avec tes appels sur ton portable, t'appelles.
Bah, il faut avoir plusieurs postes et tu les jettes comme les voyous. tu sais que n'importe quel gangster est à la tête d'une vingtaine d'appareils téléphoniques. Ils font une communication et ils jettent. Parce que sans ça, tu es repéré partout avec ton appareil téléphonique.
Ça, alors.
C'est écrit dans tous les romans, les journaux, les machins, tout ça.
C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont 10 téléphones portables.
20, 30, c'est sans arrêt.
Ça le fait rêver.
C'est un coup de téléphone et ils jettent.
Ça te fait rêver, franchement, dis-le. Tu trouves que c'est le comble du luxe. Je te vois,
c'est bien.
L'idée d'acheter un téléphone, un numéro de le chiffre.
Bah, on sait jamais sur. Sujet, ouais. Ah ouais. Alors, route de minime, ouais. À gauche, après. Ouais. C'est de la part de qui tu sais. Pouf, tu jettes le téléphone.
Non, mais sauf qu'on sait jamais sur quel numéro vous appelez dans ce cas-là.
On t'appelle pas. Un voyou, un gangster.
On l'appelle pas.
Mais non, c'est
lui qui appelle.
Si c'est pour laisser son nom, c'est rare aussi que les mecs qui font un casse dans une banque, et ils arrivent dans leur banque et ils disent mettez ça sur mon compte, par exemple. Tu vois, c'est des trucs, enfin, je veux pas donner de secret. Hein.
Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis, mais.
Mais comment est-ce qu'on fait pour les appeler?
Pardon, mais l'exemple que vous venez de donner, le type qui dit alors, route des minimes, de la part de qui tu sais, il appelle bien quelqu'un.
Oui.
Bon. Alors,
jette son téléphone aussi tout de suite après.
Oui, mais alors comment il sait sur quel numéro il doit l'appeler puisqu'il en a 10.
Il appelle une amie.
Mais oui, bien
sûr. Il lui prévient qui tu sais.
Mais oui.
Il parle qui tu sais. façon, ils vont jamais au rendez-vous, ces gens-là.
Ah bon?
Il n'y a rien de plus désorganisé que le milieu.
En tout cas, Pierre, ça sera très pratique pour vous. Il y a une nouvelle cabine téléphonique à écran tactile. Hein, c'est comme votre iPhone, mais en plus grand.
Ah, je déteste les écrans tactiles.
Vous avez
pourquoi
un iPhone?
Je deviens fou. Moi, je n'ai pas un iPhone, moi. Pourquoi?
Vous avez un iPhone?
Bien sûr.
Bah, c'est très étonnant.
J'ai un iPhone, mais je déteste ça. On se trompe toujours. Ou alors peut-être j'ai des gros doigts.
Oui, c'est ça.
Mais justement, avec la cabine téléphonique à écran tactile,
l'écran
sera plus grand et vous pourrez mettre vos gros doigts sur les bonnes touches. Non,
mes gros doigts, je peux le dire moi, mais j'aime pas qu'on me le dise.
et vous pourrez avoir accès à vos mails en plus sur la cabine téléphonique en question.
Il faudra simplement faire attention.
On ne peut pas me laisser de mail étant donné mon appartenance à la voyoucratie. On ne peut pas me laisser de mail.
Ah bon?
Ah oui, on jette tout de suite l'ordinateur.
Il faudra faire simplement attention, je dis ça pour les étrangers ou les provinciaux qui
nous
écoutent.
À bien se déconnecter.
Non, à la facture. Parce qu'en général, on paye avec une carte bancaire et il y a un minimum d'achat. Tiens, comme par hasard.
Ah oui,
la première cabine téléphonique, rendez compte, c'était en 1881 à l'exposition.
Alors qu'il n'y avait même pas le téléphone encore.
Il y avait la cabine.
Ils ont fait la cabine avant le téléphone.
Ce qui est marrant, c'est que la première fois que le type a montré un téléphone, il y avait tous les ministres, les secrétaires d'État, les chefs de et les ingénieurs en chef qui disaient, c'est génial, mais à quoi ça peut servir? Je vois vraiment pas à quoi ça peut être utile. Et il y avait un mec qui avait dit, oui, ça servira à écouter de l'opéra. Et du coup, on dit, on va écouter de l'opéra. Et je crois que les gens ont trouvé une autre utilité au téléphone.
C'était le théâtrophone, ça s'appelait.
Ça s'appelait
le théâtrophone, où on pouvait écouter une pièce de théâtre entière directement d'un théâtre.
Les Français parlent aux Français.
Les Français parlent pas aux connes, alors fais gaffe. Non, je veux dire, quand tu racontes un truc, vous devriez être suspendu à mes lèvres. C'est
mais
quand même plus intelligent que de
suspendu à vos lèvres, à vos gros doigts.
Un qui parle de balai-brosse et l'autre qui parle de Marseille.
Il va me refaire encore.
Sérieusement.
Je fais venir une jeune femme pour la première fois dans cette émission. C'est une petite nouvelle, elle est un peu timide.
Elle se permet de me dire, les Français parlent ton français.
Ouais.
Bon, alors quand même, ça m'a fait de la peine.
Oui, mais
pardon, Pierre.
Non, excusez-moi.
Ne touchez pas, Pierre. Non,
il n'y a pas de cause entre nous.
Il m'embrasse.
Il y a deux personnes
qui s'aiment. Fais-moi un bisou, mon poulet. Oh, oui.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Christine est très jalouse. Hein.
Je crois qu'elle va vomir.
Non, je dors.
Fais rien qu'à m'embrasser.
Je connais, je suis passé par là. C'est qu'un mauvais moment à passer.
La prochaine fois, je saurai, je serai là-bas. Après, il arrête, je te jure.
Ça y est, il y a un moment, ils sont fous. Et ça y est, t'es peinard. Allez, vas-y, profite.
T'as toujours été peinard avec moi. Je vais pas me rabattre sur Michalak comme tout le monde.
Stevie va sûrement faire des efforts aujourd'hui pour répondre aux questions, parce que je sais pas si vous avez remarqué.
Il a mis des lunettes.
Il a mis des lunettes.
Ouais. Ça fait longtemps que je les ai. Je les porte jamais en public, mais là, je vois rien. Alors. Je vois rien, donc je me décide à les mettre.
Mon public me connaît sans lunettes.
Je les porte jamais en public. Même devant vos amis, en quelque sorte, parce que je ne vous ai jamais vu avec des lunettes.
Non, mais là, je vois rien. Il faut que j'achète.
C'est pour soutenir Roselyne Bachelot, pour dire je suis bien un mec de droite, j'en ai rien à foutre, elles ne sont pas remboursées. Je les achète quand même.
Ouais. Aussi, oui, pourquoi pas.
Elles n'ont jamais été remboursées, les lunettes. On est dur avec cette pauvre Roselyne. Elle y est pour rien. Jamais on a remboursé les lunettes, ou très, 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 très mal. Et les dents, pareil, j'en sais quelque chose. Les fausses dents, il faut se les payer.
Non, Claude, c'est un peu faux ce que vous dites. Ce que vous voulez dire, c'est que vu le prix et le montant des lunettes que vous achetez, c'est vrai que...
Je parle des dents, c'est pareil.
Alors, vu le prix des dents que vous et moi pouvons nous acheter, effectivement, c'est très mal remboursé. Mais c'est très mal remboursé de toute façon, mais c'est quand même un peu remboursé. Et le peu que c'est remboursé, quand on achète des lunettes ou des dents qui sont un peu moins chères, c'est quand même déjà beaucoup, vous voyez. Et il faudrait que ce soit plus. Mais si on nous dit que ça va être encore moins, c'est embêtant, vous voyez, Claude.
C'est pour vous sortir
un peu du quartier de l'île Saint-Louis et du monde que je vous dis ça.
C'est cher quand on se... Tu crois que t'habites où, toi?
J'habite plutôt aujourd'hui, Claude Sarraute, mais je me souviens où j'habitais avant, contrairement à vous, Claude Sarraute.
Ah oui, bah bien sûr.
Ah bah voilà, et puis là, on dit plus rien.
C'est la guerre des mondes entre les pauvres et les riches.
Voilà.
C'est invivable.
Non mais Claude, vous voyez, il faut être un peu réaliste aussi.
Oui, ben oui, je l'ai été très. C'est pour ça que j'ai toujours habité dans des beaux quartiers.
Voilà, on est d'accord. Non, mais Claude Sarraute.
Ben oui.
Parce qu'en plus, vous renvoyez toujours à la sécurité sociale les trucs.
Bah oui, naturellement.
Vous êtes remboursé pour vos dents.
Ben rien, mais rien du tout. Ah, tu sais ce qui m'est arrivé quand on était à France Inter?
Non.
Ouais, tu te rappelles qu'il y a une station de taxi, derrière la station de taxi, il y a un grand café.
Ah non, vous n'avez pas nous raconter que vous l'avez mis sur le comptoir. Vous nous le racontez toutes les semaines, celle-là.
Oh, mais tu m'énerves à la fin. Moi, je ne peux rien dire.
Jérémy, je mens pas, il nous l'a déjà raconté.
Oui, tu peux dire des
la semaine dernière. Ça commence à m'inquiéter. Toutes les semaines, vous nous racontez la même anecdote.
Non, avec l'huître.
Moi je défends Claude. La semaine dernière, c'était pas à côté de France Inter, c'était au Salon du Livre et du Vin de Saumur avec une dent qui restait dans une huître.
C'est
différent.
Oui, mais la semaine d'avant, elle nous a raconté aussi le dentier qu'elle met sur le comptoir du bistrot des ondes et qu'elle était avec les chauffeurs de taxi qui discutaient avec elle.
Je te parle plus. Parce que tout ce que je te dis, c'est du réchauffé.
Mais t'as qu'à te renouveler. T'as qu'à avoir des nouvelles histoires.
Claude, c'est pour votre bien que si on commence à vous laisser.
Qu'est-ce que tu veux? J'ai 81 ans, j'ai le droit de radoter un peu. Hein?
Oui, mais pour le bien des personnes qui radotent, je trouve qu'on doit leur dire. Parce que ça leur évite de répéter tout le temps
la même
chose.
Elles ne se souviennent plus, figure-toi.
C'est vrai.
Elles l'ont dit. Ben non, on n'a plus la mémoire immédiate.
C'est vrai.
Du tout, du tout, du tout.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant la fin de l'émission, elle peut nous raconter encore une fois l'histoire de la dent. Avant 18h, ça peut revenir.
Non, mais c'est grave ce que vous me dites là.
C'est vrai. Mais je t'assure, c'est très grave. Hein? C'est vrai. C'est la mémoire immédiate, on l'a plus. Comme hier, ou je sais plus quand.
Oh là 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 là. Vous allez quand même tenter de répondre à nos questions, Claude.
Oui, je vais essayer.
Grâce à nous, finalement, on fait marcher la machine. Hein. Il faut faire fonctionner la machine régulièrement.
Essayons. Voilà. Essaye d'être clair dans tes questions. Parce que les trois quarts du temps, je les comprends même pas.
J'ai connu Claude Sarraute, je finis avec Tati Daniel. Non, il y a un peu de ça, quand même. Elle ne nous épargne rien, hein, Christine.
Bah, elle devient méchante en vieillissant.
C'est vrai, vous avez...
C'est vrai. Ah,
oui, t'es méchante.
Ah, chouette.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Chantal est à Romilly-sur-Aigre, en Eure-et-Loire.
Exactement.
Alors, vous avez un métier, une activité?
Je suis retraitée d'éducation nationale, j'étais institutrice.
Ah, une ex-instit. Vous avez une voix très jeune pourtant, Chantal.
Oh, c'est gentil, merci.
Ah non, c'est vrai. Quel genre d'élève vous aviez? Sage, pas sage, quelle école?
Oh, j'ai eu de tout. J'ai eu depuis des tout petits de 3 ans jusqu'à des plus grands collèges.
Et il vous manque?
Non, pas du tout.
Eh ben, on est deux.
Non, pas du tout. Mais j'ai une autre activité. Je suis présidente d'un écomusée. Qui est juste à côté, dans le sud de l'Eure-et-Loire.
Alors c'est un musée quoi, où quand on rentre maintenant dans le couloir, on fait « Eh oh !» C'est ça ou pas?
C'est quoi un écomusée, Chantal?
Alors c'est un musée.
Mais ça vous regarde vous? C'est vous qui posez les questions?
C'est pour savoir.
Il est curieux ce joujou.
La vie oui. Des gens dans la vallée de l'Aigre, la jolie petite rivière qui passe près de chez nous.
Très bien, Chantal. Vous allez affronter Laurent qui, lui, est à Chatuzange-le-Goubet. Ça, alors, s'il y a bien un endroit que je connais pas, c'est Chatuzange-le-Goubet.
Je suis curieux, mais pas jusqu'à en savoir plus sur cette ville. Hein.
C'est où, ça, Chatuzange-le-Goubet, le Goubet, Laurent?
Eh, bonjour à tous, on est dans la Drôme, à côté de Valence.
Ah, très bien. Et faites quoi, là-bas? Il y a du travail à Chatuzange-le-Goubet?
Non.
Je suis infirmier, donc il y a du travail de partout. Ah,
oui. Infirmier à domicile, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et vous êtes marié, Laurent?
Je suis en cours de séparation, à vrai dire.
Tu fais bien, hein, parce que moi, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais tu fais bien. Tout Saint-Laurent de Goubet, comment ça?
Chatuiseau
de Goubet, on parle.
C'est quoi le gentilé de Chatuiseau-le-Goubet?
Le quoi?
Vous vous appelez comment là-bas?
Les Goubetois.
Les Goubetois.
Eh bien, cher Goubetois, vous allez affronter une Romillaise, c'est ça, Chantal?
Ah non, une Romillonne.
Ah merde, j'avais une chance sur deux. 37 euros, c'est la moyenne, selon un sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique. La moyenne de quoi, 37 euros?
De ce que les Français ont dans leur poche.
Ouais, bravo!
Ouais, bravo, Chantal! Bravo.
Alors...
Dans leur poche, comment là maintenant, tout de suite là?
Ah ben, non, Christine, dans ta poche, pas dans la mienne.
Ouais, 25. Ouais. Je suis dans la moyenne des Français.
Ah bah non, t'es à 25, c'est 37.
Attends.
Oh la crevarde.
Il y a des trucs dans son sac, c'est quoi ça?
Attendez, Pierre, je crois
qu'il fait... Benichou, regarde les poches de Benichou.
Il a des gros billets, Pierre?
Des billets verts, des billets bleus, des billets mauves.
Pierre, fait monter la moyenne.
J'ai deux cartons.
Alors que moi, regarde.
C'est pas en montrant que t'as pas de pognon que tu vas avoir une chance de plus.
Ça
serait plutôt le contraire. Hein.
Mais regarde.
Il fait comme les Marseillais, il a toute sa paye dans sa poche.
Mais comment ça s'est Comment ça s'est que vous avez tous liquide dans les poches?
T'es payé en liquide ou quoi?
Je préfère avoir du liquide dans les poches, moi.
Ah bah ouais, puis attends, les prostituées, elles prennent pas la carte bleue. Hein. Tu m'as cherché en première heure. Déjà, t'es sorti sans moi hier soir, encore une fois.
C'est vrai que le liquide, ça laisse pas de traces.
Et ouais, mais...
c'est ça, Pierre. Parce qu'il Pierre, il a un côté, je fais partie du milieu, en fait.
Mais je fais pas partie du milieu, je trouve ridicule. Tous les gens, quand on va au restaurant avec eux, qui pour 30 balles, se sont, disent, je peux faire une carte, je fais un chèque, je prendrai le. Non, de...
mais ça, c'est une réaction de riche, voyez.
Ayez 100 euros en liquide sur vous.
Pierre, c'est une réaction de riche, parce qu'avec une carte, évidemment, vous n'êtes débité que le mois suivant.
Ah, mais s'il a du liquide, c'est parce qu'il est payé en liquide. C'est des choses qui ne sont pas admissibles, donc faut que
hey, tu peux parler.
J'ai jamais touché un sou de liquide de ma vie. J'ai jamais été payé hors impôt de ma vie.
Benaldi, vous faites que ça, vous.
Benaldi, hein, fait Benaldi. Que des...
Une très belle blague de temps en temps.
Christine a toujours du liquide sur elle. Hein. Forcément, elle ne le donne jamais.
Elle a toutes ses économies dans son sac.
Tu peux courir. Hein.
Mais comment vous faites sans liquide quand vous allez chez le boucher, chez le poissonnier, chez le
avec
machin?
Avec une carte.
Ils prennent les commerçants.
Mais ceci dit, la carte bleue, c'est pernicieux aussi, parce que t'as pas l'impression de dépenser de l'argent, tu sais. T'es là, tac, tac, allez, hop, petite carte.
Ouais, il viendrait pas de payer, l'idée de payer un commerçant. D'abord, les commerçants, ils détestent ça, parce qu'on leur prend un peu de pourcentage sur la carte bleue. Ouais. Et en plus de ça, ils peuvent pas faire de blague avec.
Donc
il faut être gentil avec les gens. T'achètes de la viande pour 25 euros, tu donnes 25 euros. T'achètes du machin, du poisson. Pour 1800 euros, tu donnes 1800 euros. Le prix du poisson est une chose qui me fascine, moi. Non, mais c'est la race, la plus riche du monde, le poisson. Non, mais c'est incroyable. Tu te rends compte, t'achètes... Non, mais je veux dire, t'en as pour 20 sacs dans ton assiette.
Et tu retires la tête, les arêtes, et tout, la queue, il n'y a plus rien en plus. Tu payes la tête.
Ouais, bien sûr.
Tu payais la tête.
Bien sûr, je paye la tête. Mais tu sais, moi, j'achète des sols filets, tu vois ce que je veux dire?
Ouf.
Hein, c'est beau.
Mais c'est cher.
Oui, mais la sole filet, c'est la plus belle, mais c'est moins cher que la sole portion. Parce que la sole portion, les gens l'achètent. Tandis que la sole filet, il faut d'abord un très grand plat pour la faire cuire. Et en plus de ça, il faut être plusieurs.
Il faut un très gros citron avec la sole filet.
Avec la sole filet, il faut un très gros citron, puis il faut surtout
des grosses fourchettes.
Mais une sole, c'est pas grand comme
ça. Si, c'est comme ça.
Laisse-le.
Une belle sole filet.
Mais non, tu confonds avec une raie.
Tu confonds avec une raie. Croyez-moi, il confond pas.
C'est pas le même bruit.
De la salmonellose, des tas de bactéries. On savait qu'il y en avait sur un clavier d'ordinateur, sur une porte de WC. Mais on vient, grâce à une enquête réalisée par des microbiologistes de l'Université d'Arizona, on vient de découvrir que là où il y en a encore le plus, c'est sur quoi, et ça fait peur.
Sur les micros d'Europe 1?
Non.
Quelque chose de comestible?
Non, pas comestible.
Parce qu'on parlait beaucoup des cacahuètes qui étaient le...
Oui.
C'est un aliment?
Non.
Sur les volants de voiture?
Non. Des bactéries fécales, 100 fois plus sales qu'un siège de WC, par exemple, ont été retrouvées.
Quelque chose trouvé dans la bouche?
Non, pas dans la bouche.
Les barres dans les métros?
Non plus.
Allez.
Fécale, ça veut dire quoi, fécale? Le truc de fécond?
Non, Pierre, fécale, quoi, du caca.
Sur les rampes d'escalator.
Fécale.
Sur les rampes d'escalator.
Je connaissais pas le mot.
C'est pas des rampes d'escalator, parce que tout ce que vous me désignez sont des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement poser la main. Alors que ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui vous appartient
dans
à vous.
Corps?
Non, pas dans
les
le corps.
Les brosses à dents?
Non, pas la brosse à dents.
T'es vraiment, t'as des matières fécales sur la brosse à dents.
Ça va arriver.
Là où il y a le plus de matières fécales, c'est le derrière.
Les chaussures.
Non.
Ah oui. Bah oui, on marche dans la merde.
Ici, à part Stevie et Rachel, les autres peuvent pas, de toute façon, ne sont pas visés. Vous, vous ne courez aucun danger.
Le stérilet.
À part Stevie et Rachel.
Nous, on est concernés.
Stevie,
sur un préservatif.
Non, non.
Attends, des matières fécales, où il peut y en avoir.
Et vous, vous n'êtes pas concernés.
Où il peut y en avoir de matières fécales.
C'est très drôle. C'est très drôle.
Sur
c'est très, très drôle. Hein
non, mais ça m'intrigue.
Devant le téléphone portable, devant le clavier d'ordinateur, devant la porte de toilette, eh bien, il y a.
Paillasson.
Le... Non. Et c'est particulièrement vous. Mais je crois que Stevie en a aussi. C'est particulièrement vous, Rachel.
Un chien?
Non, qui forcément est. Directement concerné par cette nouvelle que nous donne Le Point cette semaine et qui était plus sale qu'un clavier d'ordinateur, plus
les
sale.
Le kit main libre, j'ai pas l'oreillette.
Pas le kit main libre.
Ongles. L'oreillette.
Non.
C'est un objet de décoration, un objet de décoration.
Non, c'est utile. Enfin, en tout cas, les femmes nous disent que ça leur est utile.
Bah, et moi aussi, alors.
Un véritable nid à microbes.
Déodorant.
Non.
Attendez, c'est quelque chose uniquement pour les femmes.
Le vernis à ongles.
Non, les femmes en ont.
Le rouge à lèvres.
Mais non, mais Stevie aussi.
Non, parce que Stevie est très tendance, très trendy. Donc il en
donc
a.
C'est un truc à la mode.
Si, je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas.
Un Vuitton.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Le sac à main.
Un sac à main.
Un sac à main. Bonne réponse que Stevie voulait. Un sac à main, pourquoi?
Vous comprenez pas, Rachel, c'est pas un sac à merde qui nous dit.
Un sac à main. Staphylocoque doré, salmonelle. Lorsqu'en février, les microbiologistes de l'Université d'Arizona ont analysé à la demande d'un fabricant de désinfectants le sac à main d'une centaine d'employés de bureau à Washington, Los Angeles, San Francisco et New York, ils n'ont pas été déçus du résultat. Eh oui. Un tiers de ces sacs à main étaient des véritables nids à microbes souillés par des bactéries fécales. Cent fois plus sales qu'un siège de WC avec une véritable faune bactérienne. Dans 24 sacs des femmes sur les 100 analysés. Pourquoi? Parce qu'elles le posent partout, n'importe où. Aux toilettes, hop, on pose le sac à main par terre. On rentre chez soi, on le pose sur la table de la cuisine. On le repose par terre, n'importe où, dans le bus, dans le métro, sur le quai. Alors évidemment, il y a moins de danger quand il est en cuir.
Oui.
Quand il est en tissu, c'est pire que tout, évidemment. Parce que,
ça va, c'est du cuir.
Mais Vuitton, c'est pas en cuir, Vuitton.
Non, il n'y a pas de bactéries sur un Vuitton, de toute façon.
Et en fourrure, alors, c'est terrible.
Comment ça, en fourrure?
Le sac.
Un sac en fourrure.
Oui, je devrais pas dire, j'ai un sac en fourrure aujourd'hui, c'est affreux.
C'est un chat avec une poignée, quoi.
C'est doublement affreux.
Qu'est-ce que vous appelez un sac en fourrure?
Et on là, on le voit. Un très beau sac en fourrure.
Ah oui,
voilà.
Ah oui.
Putain, ça a l'air vivant.
Ouais. Oh là là, putain. Quel mauvais. C'est pas parce qu'il est sale, c'est parce qu'il est moche.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Le meilleur dont va se gêner, c'est jusqu'à 18h aujourd'hui, mais aussi quand vous le voulez en podcast sur europe1.fr. Laurent Ruquier, sa bande, est toujours invité dans cet extrait, la comédienne Christelle Chollet.
On n'a pas parlé de ce cambriolage qui a eu lieu le week-end dernier. Enfin, c'est quand même un cambriolage assez étonnant pour que on s'arrête un peu dessus. Bon, c'est pas le casse du siècle, mais quand même, il y a une boulangerie du 18e arrondissement qui a été braquée. Des malfaiteurs ont creusé un trou dans le mur d'une cave pour accéder à la boulangerie. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont volé?
Des moules à pain. C'est bizarre.
Exact. Des moules à pain, des moules à tarte.
Très très bizarre. Ça ressemble à un truc d'agent secret, tu sais, caché.
Une dizaine de moules à tarte, c'est le butin du braquage de la boulangerie du 18e. Bonne réponse de Jérôme Bonnet.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de banque à côté.
Non, mais ça devait être des moules en or.
Tu veux dire qu'ils seraient gourés, c'est-à-dire qu'ils voulaient taper dans la banque, ils sont arrivés dans la boulangerie.
Dans le genre, ouais, il n'y a pas de banque. Moi, je crois que ces histoires, comme dans les séries télé d'agents secrets et tout ça, ils cachaient quelque chose.
Mais oui, il y a quelque chose dans le moule à pain.
10 ans de prison pour voler des moules à pain.
En prison, t'as l'air con, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ben moi.
Tu prends pas 10 ans
pour les moules à tarte, hein.
Tu prends pas 10 ans pour un moule à pain? Avec un bon avocat, tu sors au bout de 6 mois.
C'est un moule à tarte, Pierre.
Un moule à tarte.
C'est parce que c'est évidemment qu'un moule à tarte.
Non, je pense que c'est qu'un moule à tarte. Je suis trop bête. Ouais. Tu vas apprendre.
Faites jamais la cuisine. Vous avez des moules à tarte. Vous les beurrez vous-même. Est-ce que vous beurrez vous-même votre moule à tarte?
Moi, je vais dire que t'as pas le choix, quoi.
J'ai encore une question à la con. Je ne réponds pas.
C'est le drame de la solitude.
Mais tu as peut-être des problèmes de sécheresse, tu sais.
Ah non.
Tu te mets
avec une patate. Il faut beurrer le moule.
Ah bon?
Moi, je mets du papier sulfurisé.
pulvérisé, c'est vachement bon.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal.
Qu'est-ce que c'est bien. Ça, c'est une belle invention.
Ouais, mais comme à l'ancienne, avec
on
les patates.
Avec
beurre,
les laver des carreaux.
Mais non, c'est important de savoir faire des bons gâteaux.
Mais oui.
Hein, Pierre.
Moi, pour garder un homme, je connais que ça. Je beurre mon moule à tarte, après ça, je fais mes carreaux, après ça, je prends ma pâte mouille. Mais qu'est-ce que c'est que cette descente aux enfers? J'apporte le courrier aux gens, parce qu'en plus, je suis concierge, et je prends ma tête de loup aussi pour.
Il y a bien un gâteau pour lequel vous craqueriez.
Oui, c'est le Saint-Honoré, moi.
Ah, voyez.
Et un gâteau au fromage blanc.
Non, pas du tout.
Sûr.
C'est bien que les juifs adorent ça, mais pas moi.
C'est quoi le Saint-Honoré, d'ailleurs?
Le Saint-Honoré, c'est des choux avec. C'est de la non. C'est des choux.
Des choux à la crème avec de la chantilly autour.
Ah oui, ah, ça j'aime pas moi alors.
T'aimes pas la chantilly?
Et Paris-Brest.
Un mec aime pas.
Ah, Paris-Brest.
Paris-Brest, l'intransigeant. Non, mais c'est bon, mais je c'est de la crème pâtissière. C'est de la crème un peu trop forte. Mais il y a un Paris-Brest formidable dans un restaurant que je connais. Au Paul rue Paulbert, hein, tu peux pas savoir. C'est le meilleur Paris-Brest de Paris. Ouais, mais je suis pas fou du Paris-Brest.
Moi j'aime bien, quand j'étais gamin, ce que je préférais, à quand on arrivait, comme disait Philippe Delerme, vous savez, l'écrivain des petites gorgées de bière, il décrit la ficelle du paquet à gâteaux le dimanche. Alors le papa et la maman ouvraient le paquet à gâteaux. Puis là évidemment, je sais pas pourquoi, ils prenaient jamais. Moi maintenant, j'achète toujours les 10 mêmes, comme ça au moins, il y a personne qui s'engueule. Non, mais non, ah bah si,
bah non, il faut parce que tu peux partager.
Ah non, et tu peux partager.
Tu prends le mien, t'es là, dire pourvu qu'ils prennent pas le mien, pourvu qu'ils prennent pas le mien.
C'est ça qui est bien.
Alors il y avait la boule au chocolat là, avec les petits grains,
la tête de nègre.
La tête de nègre.
La meringue dedans, c'est ça.
C'était bon. Ou la petite souris.
Oh, oui, pâte d'amande.
Ça, c'était génial.
Mais un pâte d'amande verte.
Oui, voilà, pâte d'amande.
Oui, on appelait
à Paris, on appelait ça la figue.
Heureuse,
le salambeau, le salambeau, ça s'appelle.
Ah non, ça, c'est le gland.
Ah, alors c'est le gland que j'aime, moi.
Et le puits d'amour, et le puits d'amour. T'aimes pas le puits d'amour?
Avec des fruits au milieu.
Le puits d'amour, t'aimes pas le puits d'amour, le clafoutis? Quelle enfance heureuse.
Et les petites côtes d'agneau, là.
Il est nul, hein. Nous, à l'assistance, on n'avait pas tout ça.
Ah bon? Hein?
Le jour où on avait une orange à l'assistance, on était content. On avait une orange et un coup de bâton. Et eux, ils étaient là à ouvrir leur petit gâteau et tout ça, avec leurs parents. Je préfère ma vie à la leur, quand même.
Et la religieuse, moi, ce que j'aimais, c'est juste manger.
Oh, la religieuse, j'adore me faire faire une religieuse.
La tête.
Juste la tête de la religieuse.
Et lécher le cou. Le cou
autour.
Lécher le cou de la religieuse.
Mais oui, tu sais, la crème qu'il y avait autour.
Ah ouais,
tu léchais pas les petits.
C'est marrant, j'ai jamais beaucoup aimé, si ça vous intéresse, j'ai jamais beaucoup aimé le sucré, moi. Je suis très salé comme garçon.
Mais alors, qu'est-ce qui te fait grossir, alors? Non, c'est ça.
Allez, un point.
Voilà. Non, t'es pas gros, mais
tu pourrais jouer au Bélix. Bon, voilà.
Qu'est-ce que tu bouffes? Hein? Qu'est-ce que tu manges?
Jambes, en fait. Qu'est-ce que je mange?
Oui.
Que du salé.
Voilà, mais tu.
Une cacahuète, un truc. Du salé, un sandwich, un tranche de saucisson.
Mais tu manges pas de saucisse, tu manges pas de porc.
Un sandwich. Toi.
Moi, je mange pas de. Pourquoi je mangerais pas de porc?
Mais j'en sais rien, parce que les feuilles.
Comment t'en sais rien? T'as bien une idée à la tête. Pourquoi est-ce que je mangerais pas de porc?
Mais non, mais Bénichou, je veux dire, le saucisson. Moi, je suis malade de saucisson, ça fait grossir le saucisson.
Non, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit Bénichou.
Les rillettes de porc, ça fait grossir. Mais je me dis, un mec qui bouffe pas de porc peut pas grossir. Qu'est-ce qu'il bouffe pas de sucré?
Mais d'où tu tiens que je ne mangerai pas de porc?
Mais je savais pas, je pensais que dans ta religion.
J'ai pas de religion, moi, je t'emmerde, moi, ma religion. D'abord, j'ai pas de religion, je défends mes origines, mais il se trouve que je ne suis pas pratiquant. Donc je mange du porc chaque fois que je te vois, je dis tiens, je boufferais bien un peu de cochon.
Sur l'île de Porcro, on a réussi à le photographier. C'est assez rare pour qu'on le prenne en photo grâce à un appareil mécanique. Qu'est-ce qu'on a pu photographier?
Le phare.
Sur l'île de Porcro. Le phare.
Mais pourquoi ça bouge?
On n'aurait jamais photographié le phare de Porcro.
Bah non, parce que ça dépend des conditions, ça dépend si. Je ne sais pas où est cette île.
Non, mais vu que l'appareil photo existe, alors, on aurait.
Expliquez, Claude, où est Porcro à Stevie?
Je crois que c'est une île.
Oui, c'est ça. Oui, mais où?
C'est ça. Ça doit être dans le Midi.
Oui,
ça doit être en face de Cannes.
Pas Cannes, non, c'est plutôt de Gien.
plutôt dans le Var, effectivement, vers, entre Gien, le Lavandou.
Voilà.
Il y a deux îles, l'une qui s'appelle Porquerolles, l'autre qui s'appelle Porquerolles.
Voilà.
Porquerolles est beaucoup plus sauvage, Porquerolles est plus aménagé, mais quand même, c'est charmant, très, très, attire beaucoup de touristes. C'est un des endroits les plus chiants du monde.
Ah ben moi, j'ai passé un été génial.
Il y en a une autre.
Il y en a une autre, c'est le Sainte-Marguerite. Et je sais que c'est en face de Cannes, parce que Revel. Oui,
on va peut-être pas faire toutes les îles de France, voyez. Hein, Porquerolles est en tout cas entre Porquerolles et l'île du Levant, pour situer, vous voyez, Stevie. Donc, au large du Var, vous avez Toulon qui n'est pas très loin, mais c'est surtout face à la presqu'île de Gien, et plus précisément face au Cap Bénat. Voilà.
Ah. Très bien. Alors, quelle est la question ?
Moi, est-ce que c'est pas un être humain qu'on a réussi à photographier ?
Non, c'est pas un être humain.
Alors, un animal ? Non.
Alors, les oiseaux, il y en a beaucoup. Porquerolles, c'est une sorte de réserve pour les oiseaux de mer. C'est un paradis écologique, même.
Oui, donc, ce serait un animal.
C'est même une réserve ornithologique.
Exactement.
Hein ?
Oh là là, quel
beau animal ! La culture en pleine gueule !
Ah bah, tu parles qui ça pour ça ?
Ornithologique ?
C'est
la première fois que je prends de la culture en pleine gueule.
Parce que je vais dire un truc. À la lettre O, justement. Je finis la lettre O, c'est un des derniers mots que j'ai fait. Après, j'ai ozone et c'est fini.
Non, mais vous n'avez pas répondu. C'est donc un animal qu'on
cherche. Oui, je vous ai dit oui, Caroline.
Ah, un oiseau.
Non.
Un dauphin.
Non.
Il y a la mer.
Oui.
Donc, c'est un oiseau dans l'eau. Je veux dire, c'est un animal marin.
Non, justement.
C'est un...
désert.
Et on est surpris que cet animal ait nagé jusqu'à Porquerolles.
Un chamois.
Un chien de Brigitte Bardot.
Non.
Alors, un tigre ?
Non.
Une bête à quatre pattes ?
Un ours ?
Quatre pattes ?
Un ours des Pyrénées qui serait venu jusque-là ?
Quatre pattes, oui.
Quatre pattes.
Un renard ?
Non.
Un sanglier ?
Un sanglier, bonne réponse de Stevie Boulet. Le mystérieux sanglier nageur de Porquerolles, c'est une page entière dans Le Parisien ce week-end, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. On s'est demandé, est-ce que c'était vrai ? Tout Porquerolles parlait que de ça.
Surtout Mylène de Mongeau.
Qui habite là-bas
et qui est une sorte d'autre Brigitte Bardot pour les animaux qui rigolent
sur l'île. Le cochon sauvage fait beaucoup jaser malgré la découverte d'empreintes de l'animal au nord et au sud de l'île. Beaucoup doutaient de sa présence réelle jusqu'à ce qu'il soit photographié par un appareil photo piège qui se déclenche automatiquement.
Dès qu'il voit un sanglier, il se déclenche l'appareil.
Non, dès qu'il y a le passage d'un.
Ah oui, d'accord. Merci, on a compris.
Il a nagé jusque-là, il est toujours en vie.
Alors oui, et on nous confirme que, mais oui, on l'a pas retrouvé encore, mais on nous confirme en tout cas qu'un sanglier peut être capable de nager autant, mais il faut qu'il soit vraiment très bon nageur.
Il faut qu'il soit très motivé.
Il faut qu'il ait été entraîné par Philippe Lucas, quoi.
Si vous voulez aller voir Astérix, peut-être.
C'est assez fou quand même.
Ouais,
hein.
C'est drôle.
Je trouve qu'il y a une recrudescence de présence de sangliers un peu partout.
Oh, partout. Boulevard Montparnasse, j'en ai vu deux l'autre jour. C'est drôle parce que
mais vous croyez
pas sourire, il n'y en a pas un seul à Montparnasse plein.
Mais vous croyez pas si bien dire, toutes les semaines on lit dans la presse que, je sais pas, à Clermont-Ferrand il n'y a pas longtemps j'ai vu ça, un sanglier en pleine ville, il y a des sangliers partout.
Sur l'autoroute aussi,
vous savez,
sur l'autoroute. Entre Le Mans et Paris, il y avait 5-6 sangliers écrasés.
Un jour on verra, dans le repas, un sanglier passer, il faudra pas être surpris, Pierre.
Non mais vous savez pourquoi ?
Ah.
C'est parce que le jambon, le meilleur du monde, qui s'appelle le jambon serrano, enfin le jambon, le bellota, tout ça, c'est quoi pata negra ? Ce sont des jambons de d'animaux hybrides qui sont mi-porc, mi-sanglier, et qu'on fait naître comme ça. Et c'est pas le jambon de sanglier qui serait trop fort, c'est pas le jambon de porc, celui qu'on connaît, et c'est un jambon qui naît d'un animal hybride, qui est un hybride de sanglier et de cochon.
Ben, j'en mangerai plus jamais.
Mais pourquoi ? En quoi ça te dégoûte ?
Ben, d'imaginer un porc et un sanglier faire l'amour et de manger le résultat, ça me donne pas envie.
Ça fait longtemps. Ils
mangent pas le résultat.
Mais non, mais ça se reproduit entre les patanègres.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Claude, qui vous a fait rire ?
Elle me dit, mais attends, ça se fait dans une éprouvette, ils s'enculent pas.
Mais c'est pas un sanglier.
Ah oui, t'as raison.
Eux, on fait très peu d'enfants.
J'oublie.
Mais au moins, je continue les expériences quand même.
Qu'est-ce que Catherine Deneuve a pu faire qu'on n'a pas fait depuis longtemps ? C'est un privilège rarissime dont elle a pu profiter.
Je ferme ma gueule maintenant.
C'est un frais Europe de Saint-Laurent ?
Pas du tout.
C'est dans un aéroport ?
Non. Si vous le savez, dites-le.
Non, je sais pas, ça a rapport avec des grottes peut-être, non ?
Elle a pu aller visiter Lascaux.
Alors exactement, elle a visité, enfin pas Lascaux, Balasco. Non. Si c'est la, non, pas Lasco. Non, c'est, c'est la grotte Chauvet.
Balasco.
Non, pas Balasco.
Balasco. Moi, je dis Lasco, vous dites Balasco. Alors, c'est Balasco ou pas?
C'est Catherine Deneuve qui, avec Frédéric Balasco. Mitterrand, sont rentrés ensemble dans la grotte Chauvet en Ardèche.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Habillés de combinaisons de spéléologie, Catherine Deneuve et Frédéric Mitterrand ont ainsi pu découvrir au cours de cette visite privée la plus vieille cavité. Je parle de la grotte, là.
Non,
il n'y aura jamais. Tu ne serviras jamais.
La plus vieille cavité, je parlais de Frédéric Mitterrand, pas de Catherine Deneuve. La plus vieille cavité ornée de dessins préhistoriques répertoriés dans le monde. Moins 32 000 avant notre ère, Pierre.
32 000 avant notre ère, ça fait 33 000, 34 000 10.
Mais ils ont été liftés.
C'est 34 000 10.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Qui les mammouths.
Non, c'est les vrais, là.
Non, mais
les peintures.
Les peintures,
on les a.
C'est la première fois que Catherine Deneuve va chez Mammouth.
Attends, il paraît que ça n'existe plus, Mammouth.
Non, ça n'existe plus. Oh, cherchez pas. Peut-être qu'on retrouvera des vieux supermarchés Mammouth plus tard.
Mammouth n'existe plus. Mammouth qui écrase les prix.
Ah non. Ça fait pas longtemps en plus. Ça fait que 10 ans que ça n'existe plus.
Mais pourquoi?
Pour ne pas dire 20.
Mais qu'est-ce que c'était remplacé par quoi? Mais
oui, on va par Auchan, Carrefour, Champion, Carrefour, tout ce que vous voulez, Pierre.
C'est pas possible.
Oh, l'autre jour, j'ai pensé à vous, j'en avais jamais vu. Je suis passé enfin devant un Carglass, Pierre.
Ah, moi aussi, j'ai vu ça.
Et vous avez chanté?
Ah bah tiens, à Bordeaux, en revenant
de
Bordeaux.
C'est une couverture, Carglass, je crois.
Et tu as chanté dans ta tête.
D'abord, j'ai un Carglass répare.
Tout le monde fait ça.
Remplace.
C'est chouette.
Si je fais pas chier dans la vie, toi.
En 1894,
oui.
1894, que s'est-il passé pour la première fois au divan japonais?
Au divan japonais, c'est quoi ça?
Le divan japonais, si je vous dis ce que c'est...
C'est un cabaret.
Ouais,
c'est
aujourd'hui, je peux même vous dire, c'est devenu le divan du monde. C'était rue des Martyrs à Paris.
C'était le premier travelo qui se déguisait en Dalida en 1800...
En Dalida, oui.
C'était le premier imitateur de Claude François.
Puis après, Orlando a perpétué le truc.
15 ans plus tard.
C'est sûr que c'est un spectacle qui a été pour la première fois joué, non? C'est pas ça?
Oui, exactement. Pas un spectacle. C'est la première fois qu'il s'est passé quelque chose qui, effectivement, ensuite a été repris et qui, depuis d'ailleurs, fait floresse, comme on dit. Mais...
Ah, le premier striptease, évidemment.
Le premier striptease. Bonne réponse de Pierre Benichou. En 1894, dans une salle de music hall de la rue des Martyrs à Paris, connue sous le nom de divan japonais, devenu d'ailleurs aujourd'hui divan du monde, avait lieu le premier striptease professionnel, évidemment.
Réalisé par Claude Sarraute.
Non, le spectacle s'appelait Le coucher d'Yvette. Le coucher d'Yvette. Et l'actrice se dénudait peu à peu, comme quand on va se coucher, un vêtement après l'autre, finissant nu devant un public qui n'avait jamais vu ça. Le spectacle fut un grand succès. Il y a eu évidemment un scandale aussi, mais depuis, évidemment, l'effeuillage est devenu non seulement professionnel, mais devenu même un enseignement, puisque cette petite précision, cette anecdote est racontée dans un article de Libération qui traite du striptease devenu un art vertueux, et puisqu'aujourd'hui on l'enseigne même, il y a des écoles de striptease à Paris, à New York, un peu partout, on peut apprendre le comment on appelle ça, le lap dance.
Beaucoup plus que le striptease, mais le striptease à l'époque était beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus lent. Maintenant les filles arrivent en bikini ou avec une petite jupette, pof pof, elles sont à poil au bout de deux minutes, alors il faut qu'elles fassent des trucs avec une barque, des grimaces et tout. Tandis qu'à l'époque, quand une femme arrivait sur scène comme ça et qu'elle se mettait en tenue, c'est-à-dire nue, pour aller se coucher, rendez compte le nombre de trucs qu'elle enlevait.
Je sais pas, moi je trouve pas ça super sexy, les feuillages, quoi. Je trouve ça, c'est toujours un peu ridicule quand même, non? On trouvait pas que c'est pas un peu ridicule quand même?
C'est ridicule, c'est hyper frustrant, surtout les clubs de striptease.
Ouais, on peut pas toucher, on peut rien faire.
C'est ça. Tu peux toucher, mais tu peux te faire éclater par la sécu surtout.
On peut pas toucher.
Non, on peut vraiment pas toucher.
Sur le moment, t'as pas le droit.
Non, mais même en rajoutant, on peut pas toucher. À propos de prix de gonzesse, vous avez vu l'américain là?
Quoi?
L'américain, le gouverneur, le sénateur.
Ah oui.
Savez-vous combien ça coûtait? Un Empire State Building, je vois que mon public est là, allez-y. Vous voulez bien le savoir, hein? $5,000 de l'heure. C'est des gonzesses à 3 bâtons par heure. Je savais même pas que ça existait, moi. 3 briques, 5 000 euros de l'heure.
5 000 euros de l'heure.
Tu te rends compte?
Et de faire un sacrifice.
Un type qui s'endort, qui reste 4 heures.
On va proposer sa candidature.
C'était une histoire de Pierre Doris. Ma femme est très sympathique avec moi. Tous les soirs, elle me fait un striptease avant de se coucher. Mais le problème, c'est que le temps qu'elle se déshabille, je m'endors. Albertine a 21 ans et elle a dû aller témoigner dans un commissariat de police et son témoignage fait beaucoup parler la presse internationale. Pour quelle raison ?
Andrea, c'est une fille. C'est pas un prénom masculin italien.
Alors, toute la question est là.
Ben vous avez dit elle.
C'est un travelo.
C'est un travelo.
Ah, c'est celui qui a voulu faire chanter Ronaldo.
Exactement, c'est le travesti qui fait chanter Ronaldo, le footballeur en vacances au Brésil après son opération du genou. Et le pauvre est allé voir...
Sur l'opération d'où ?
Du genou.
Ah bon, c'est pas... Oui. Ça sert à rien pour changer de sexe. Oui.
Et le pauvre est allé voir les prostituées, il pensait que c'était des filles, il s'est aperçu que c'était des garçons. Ouais. André Louise Ribeiro Albertino est en fait un travesti de 21 ans qui se faisait passer pour Andrea Albertine, comme les deux autres qui l'accompagnaient d'ailleurs. Ronaldo est tombé dans le piège. Au départ, il a tenté de calmer les choses.
Bien sûr, il croyait que c'était une
l'image
fille.
L'image jolie est tombée
forcément
dans le piège.
Vous savez comment ça se passe en général ?
Non.
Au dernier moment, le travelot vous dit « Tu sais, il faut que je te dise, hein, je suis un petit garçon. Hein. » Et c'est ce que dit le mec, je t'ai rien demandé, c'est tout.
Mais comment tu sais tout ça, Pierre ?
Parce qu'on me raconte beaucoup. On se confie énormément à moi, mais c'est extraordinaire qu'elle s'appelle Albertine.
Oui.
Vous vous rendez compte ? Et oui, Albertine disparue. C'est un des personnages de la recherche du temps perdu le plus connu, justement, tous les exégètes. Et les exégètes ont trouvé à dire Albertine, c'est un homme, c'était un tel, c'était machin. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que dans un roman, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme.
Ronaldo, il voit des jeunes filles.
Il est blessé au genou.
Bon.
Il se paye des prostituées, il est là-bas au Brésil. Mauvaise surprise, il s'agit de travestis, de garçons, alors qu'il pensait que c'était des filles. Bon, ça, allez savoir s'il le savait ou pas, en tout cas. C'est ce qu'il a dit au commissaire. Pour étouffer l'affaire, dans un premier temps, il tente de verser à chacune 400 euros pour acheter leur silence, évidemment. Mais l'un des travestis dit 400, c'est pas assez, il faut 20 000 euros.
Bien sûr.
Et là, c'est Ronaldo lui-même qui décide de porter plainte pour extorsion de fonds au commissariat.
Il va proposer 400 euros. C'est moins qu'il gagne en une seconde. Ah non, ça, il mérite d'y aller. Hein.
Ah oui.
Et il porte plainte.
J'aurais fait comme lui.
Ah oui,
absolument. Mais oui, non,
tu redonnais 400 euros, toi.
Non, mais porter plainte.
Bien sûr que j'aurais porté plainte.
Mais pourquoi porter plainte ?
Imagine, quand j'étais jeune, je m'approche, je crois voir un garçon.
Oui.
Et puis je tombe sur une fille, j'en ai rien à foutre de la fille.
Ah bon ?
Alors je me sens grugé et je porte plainte.
Ouais, sauf que...
Mais surtout parce que...
Parce qu'il y a extorsion.
Sauf que la fille en question a en plus pris sur son téléphone portable une courte vidéo où on voit le footballeur sortir du motel.
Aïe, aïe.
Évidemment, bien accompagnée. Donc elle a en plus des preuves visuelles. Ouais. Ça va circuler, j'imagine, sur le net très très vite, cette affaire-là, au Brésil. Et ça va arriver forcément jusque chez nous. Et le travesti en question accuse aussi Ronaldo de lui avoir demandé d'acheter de la drogue et de lui ramener de la drogue. Donc, bref, il est dans un beau merdier. Hein.
Cette histoire de tarif me fait penser à une blague. C'est un couple qui va faire des courses un samedi après-midi. Madame va chez le coiffeur et monsieur attend dehors. Et comme nous sommes dans le quartier Saint-Lazare, il se dit « je vais peut-être me faire faire une petite pipe en attendant ». Donc il va voir une jeune femme et il regarde dans ses poches et il n'a que 15 euros sur lui. Alors il propose à la jeune femme les 15 euros. La jeune femme lui répond 15 euros, mais tocard, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour 15 euros ? Donc il s'éloigne et puis il attend et madame ne sort pas de chez le coiffeur, il y retourne, il dit oh, t'as une petite pipe là, 15 euros là, vite fait, on dit non, 15 euros enfin, donc elle commence à dire à une copine, mais t'as vu ce tocard qui me propose 15 euros, alors il s'éloigne, madame sort de chez le coiffeur, toute belle et elle le prend par le bras, il descend, il rentre un petit peu les épaules en passant devant la pute qui lui fait, t'as vu ce que ça a trouvé pour 15 euros.
Ah oui, elle est pas mal. J'avais oublié. Je la connaissais, mais je l'avais oublié.
C'est drôle parce que ces vieilles histoires de prostituées, ça me rappelle une qui est pas drôle du tout, moi, qui me fait hurler de
rire. Alors, allons-y. Faisons le test.
C'est un député. Il a même été ministre, je crois, sous la 4ème République, qui s'appelait Coudet du Foresto. C'est son nom, il s'appelait Monsieur Coudet du Foresto, très connu. Enfin, il était connu à l'époque. Et il passe rue Godot de Morouin un soir, et une pute qui dit, tu viens, chérie? Et il lui dit, quoi? Mais je suis coudé du Foresto. Et elle lui dit, ça fait rien, on fera ça sur le côté. Moi, je...
Ah, si elle me plaît bien. Évidemment, elle ne marche que si on connaît le nom.
Oui, il faut. C'est comme il faut expliquer, c'est pas drôle.
Un peu tordu.
Oui, ah bah, c'est qu'à le dire.
C'est le cas de le dire.
Quelle photo extraordinaire vient-on de découvrir dont le Figaro nous parle aujourd'hui, une photo qui n'existait pas, enfin qui existait, mais qu'on n'avait encore jamais vue.
C'est une photo de quelqu'un ?
C'est une photo de quelqu'un.
Parce que moi j'ai lu qu'on avait découvert sur Orson Welles un certain nombre d'images qu'on ne connaissait pas, mais ce n'étaient pas des images fixes.
Non.
Donc c'est un personnage important ?
C'est un personnage qu'on...
Au 19e siècle, c'est-à-dire au moment où, de l'apparition de la...
Exactement, voilà. Cher Gérard.
Donc c'est une photo...
Alors donc qui est-ce qu'on a pu la naissance
de Claude Sarraute au début ?
Alors c'est pas justement...
c'est pas le 19e siècle.
C'est pas la naissance, c'est la première fois qu'on voit si nettement, on va dire, cet homme, puisqu'il s'agit d'un homme, qu'on voit sous son visage adulte en photo.
Donc c'est un écrivain...
C'est le 19e siècle.
C'est un écrivain.
C'est un écrivain.
19e, Victor Hugo.
Plus même qu'un écrivain.
Non mais Victor Hugo, là,
un poète.
Un poète.
Rimbaud.
C'est pas la Martine.
Rimbaud, bonne réponse.
La photo de Rimbaud.
Ah non. Une photo de Rimbaud adulte, on en a très peu.
Ah bah moi j'en ai partout dans mon sac.
Non, Rimbaud.
Rimbaud, né à Charleville en 1800.
C'est Wikipédia. C'est Wikipédia.
Ta mère, toi. Ta race.
Non mais ce qui est génial.
T'as entendu Youssouf qui est ressorti tout d'un coup.
Vas-y.
Youssouf Poulain.
Il m'a dit ta mère, ta race.
Non. Et Stevie, c'est un type à qui on peut vendre n'importe quoi. Moi, je lui ai vendu une fois le crâne de Louis XVI, enfant.
Non, mais attends, elle est cinglée. Quand même, Arthur Rimbaud, il y a eu des expositions. Il y a une super photo de lui, et même étant jeune, avec. Je l'ai même en.
Mais justement, à l'âge adulte, je vous dis, c'est la première fois qu'on le voit si nettement à l'âge adulte. C'est une découverte extraordinaire. La photo prise sur le perron de l'hôtel de l'Univers à Aden, en Abyssinie. Rimbaud est sur cette photo près d'une femme et le portrait a été agrandi. Je vais vous montrer.
Ah bah oui, ouais, montre-nous. Attends, parce que là, moi, je.
Ah ouais, moi,
oh, la bordel, mais c'est Rimbaud, dis donc.
C'est ouais, over the Rimbaud.
C'est vrai.
Non, mais ah oui, dis donc.
Quand même, c'est émouvant.
Ah oui.
Rimbaud, ça reste quand même pour des tas de jeunes. Pour nous. Même des jeunes. Rimbaud, c'est
génial.
Franchement.
Pierre Bénichoux nous aurait fait quelques vers. Mais
Stevie va nous lire quelques poèmes.
Oh là là, attends, faut que je m'en rappelle, Rimbaud.
Allez-y sur Wikipédia, là, vous allez en trouver.
Points dans mes poches, je crevais, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou.
Verlaine, surtout.
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée sur mon front.
Ah oui, d'accord.
C'est
sûr que c'est arrosé.
Non, mais c'est incroyable, on peut l'applaudir quand même.
C'est déjà fait.
Ah non, franchement.
Bravo.
On se moque, mais c'est peut-être le seul autour de cette table. Ah, même Miller, il serait pas capable.
Tiens, regarde,
je suis impressionné par la photo. Plus avec le ton.
Oui, c'est vrai.
Je suis impressionné par la photo. Montrez-la à Stevie. On a tellement devant
C'est ça que j'ai chez moi, celle-là.
Ah oui, non, mais ça. Voilà. Mais voilà, regarde.
On a tellement devant les yeux le portrait, effectivement, qu'on connaît Rimbaud, que là, c'est très émouvant. Je trouve
ça super beau.
Elle est moins beau gosse que quand il était jeune.
Ah oui, souvent, ça arrive, ça.
C'est étonnant.
À part Benjamin Button et moi.
Mais c'était peut-être à son retour d'Afrique quand il était tombé malade, non ?
Ça vous fait rire, ça, Michel.
Okay. Non, parce qu'on dit souvent que le succès est Rimbaud, mais là, pareil.
Le succès Rimbaud.
Oui.
Fabrice, on a des photos de vous jeunes. J'aimerais bien vous voir.
Ah oui, en aube.
J'en amènerai, je les mettrai sur
en
le site.
En aube.
C'est qui votre poète préféré, vous, Fabrice? On ne sait pas, tiens, quels sont les poètes préférés des uns et des autres.
Ah, si, si.
Alors, vous, Fabrice, pour commencer.
Je vais réfléchir, mais j'aime bien Joe Star. Mais après, je.
Ah oui, vous n'avez pas Stevie, c'est
Rimbaud, ou sinon il y en avait un autre, je crois que c'est. Oh, mais je suis pas sûr de moi.
Allez-y.
C'est Ronsard ou quelque chose.
Ronsard, c'est pas mal, oui.
Mignonne, allons voir.
Et qu'est-ce qu'il a connaissez ce matin de Ronsard
Ronsard, c'est vieux, alors là je me rappelle plus en revanche.
Mignonne, j'ai appris.
Non, mais alors je vous demandais pas quel était le poète dont vous vous souveniez, je vous demandais le poète que vous préfériez.
Ah, c'est Rimbaud.
Alors c'est
incontestablement.
Michalak.
J'aime bien Orelsan, moi. Vous savez, suce ma bite à la Saint-Valentin. C'est joli.
Vous
voyez, c'est que des incultes. Gérard.
Alors bon, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Aragon ou Baudelaire, mais il y en a un que je vais citer, qui est Francis Jammes, qu'on cite relativement peu, que j'aime
beaucoup.
Qu'est-ce
que vous pouvez nous dire de... Je voulais dire la même chose.
Ben, Francis Jammes, il a fait toute une série de prières, prières aux ânes, prières à l'enfant qui meurt. Et à un moment, j'étais très frappant. Il parle, il s'adresse à Dieu. Il était extrêmement croyant et il dit souvenez-vous, mon Dieu, devant l'enfant qui meurt, que vous vivez toujours auprès de votre mère.
Voilà. Tu devrais nous donner une poésie à apprendre à chaque
fois.
J'ai fait radio, j'ai pas fait éducation nationale. Hein,
bien sûr. Et Laurent, et quand on a une mauvaise réponse, tu nous donnes une petite fessée, d'accord?
Gloire et louange à toi, Ruquier, dans les hauteurs du ciel où tu régnas et dans les profondeurs de la terre où vaincu tu rêves en silence. On pourrait adapter, si vous voulez, pour faire des.
Michel, votre poète préféré.
Oh, bah, je crois que c'est Verlaine qui nous a.
De loin. De loin. Bah, oui. Et La Fouine, tu connais La Fouine?
Éric Besson, un poème d'Éric Besson?
Non, La Fouine, c'est un rappeur. Tu connais.
Et vous, Titi, alors?
Moi, sans hésitation, Basile Boli.
Pichon a été prise en photo ce week-end à côté de quelqu'un qui la soutient.
Et c'est votre amoureuse, Marinette.
Pardon ?
Oh, depuis longtemps, vous suivez sa carrière, Marinette.
Vous savez qui c'est, Marinette Pichon ?
C'est celle qui fait du football aux États-Unis. C'est pas elle, non ?
Oui, mais alors, elle est à la retraite aujourd'hui, hein, Marinette. C'est une ex-joueuse de football.
Et elle soutient quelqu'un ou c'est quelqu'un qui la soutient ?
C'est quelqu'un qui, avec elle, la soutient. Toutes les deux, elles apportent leur soutien, c'est qu'à le dire.
À Mohamed Ali ?
Non.
Un sportif ?
On a pu voir des photos ce week-end faites de Marinette Pichon aux côtés de...
C'est une fille ?
Tiger Woods ?
Non.
C'était à poil.
Amélie Mauresmo ?
Non, cette question, je la pose pour voir si tout simplement vous retenez ce qu'on dit dans cette émission.
Est-ce que c'est une fille avec elle qui elle est ?
Elle est française.
Est-ce qu'elle est malade ?
Non.
C'est une sportive ou pas la fille en question ?
Française, non. Sportive, non.
Marinette Pichon, voilà un nom que j'aime bien. C'est pas, comme, c'est pas Wendy Bouchard. Marinette Pichon. Oh. Tu comprends ? C'est un vrai nom, ça.
Mais c'est justement. C'est rien qu'à cause de son nom que Laurent est tombé amoureux d'elle, mais il y a déjà très très longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous parlez de Marinette Pichon.
C'est une chanteuse.
Qui ça, Marinette Pichon ?
Non, elle soutient. Mais écoute, essaye de te souvenir des questions que tu poses. Elle soutient. Enfin, je veux bien que tu sois malade, mais à un moment, reste chez toi, tu vois.
Vous avez vu comment elle me parle ?
Et après, Christine,
tu vois, je n'ai aucune estime pour lui. Et j'ai plutôt pour toi une sorte de dévotion. Mais là, tu es allé trop loin, tu priais de quitter la salle.
Mais non, mais on se lève, on vient travailler, tout ça.
On se lève, on vient travailler. Oh, qu'elle sort atroce.
On dirait qu'elle va aller mieux.
On t'a pas laissé au lit, on t'a pas envoyé un chèque pour rien.
On aurait mieux fait. Hein.
Est-ce que cette femme qu'elle soutient est une femme politique ?
Je vous réponds, faites passer la question par quelqu'un d'autre.
Alors, Christine voudrait savoir.
Je joue plus.
Non, elle te demande si c'est une femme politique.
Non.
Pas du une tout. Chanteuse.
C'est une sportive aussi.
Non.
Non, on a dit non.
Et je femme. Vous ai dit que vous auriez dû le savoir tout de suite si vous étiez quelqu'un. Si vous vous souveniez.
Bon, dis-moi. J'ai essayé de te sauver ton
mais là,
coup. Mais là, quand même, nous casse pas les couilles.
On en a parlé dans la première heure.
On en a parlé
hier.
On en a parlé.
Si vous vous souvenez de quelqu'un qui. Oh, et merde.
Qui est venu sur l'émission ici.
Un invité mystère.
Voilà, oui.
Ah, qui fait de la cuisine ?
Non.
Il y en a Carambeu.
Voilà, merci Joujou, heureusement qu'il est là. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous vous souvenez pas qu'Adrien Carambeu, quand elle est venue ici, nous a précisé qu'elle était maintenant ambassadrice du football féminin.
Oui, oui.
Ah bon ? Oui, mais elle n'a pas parlé de Marinette Pichon.
Oh. Oh, Marinette Pichon est une footballeuse féminine.
Je crois qu'on est en train de le perdre. Ouais.
Dans la série, j'y ferai pas payer la chambre. Adriana Carambeu est numéro 1.
Ah, je croyais que c'était à Marinette Pichon. Adriana Carambeu, bah, vous n'étiez pas là quand elle est venue.
Non, c'est
elle a dit
7,
plusieurs fois. Elle a dit, vous voulez Pierre Bénichou.
6 fois 7.
Oui. Ah non,
ça fait rire encore.
C'est vieux comme ça, Pierre. Pour moi, c'est tout nouveau.
Pourquoi on vient saboter notre image dans cette émission ?
Pas du tout. Moi, les gens me disent enfin ta vraie image. Elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est toi qui fais là. Alors je dis non, mais moi c'est une psychanalyse que je fais ici. Il dit tu parles Charles, à combien la séance, tu vois? Non, mais moi je m'en fous de toute façon. Moi je suis, tu sais, je suis une sorte
de je commence à avoir la cote. Elle me demande si t'es marié, non, Pierre.
Je suis une sorte de garçon de bain métaphysique, moi, tu comprends?
Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est combien de mots il te reste après là pour la fin de la journée? Tu les as tous dit là, non?
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Dominique est à Colmar, dans le Haut-Rhin. Alors évidemment, question traditionnelle, faites quoi dans la vie Dominique?
Alors moi, personnellement, je profite de la vie. Voilà.
Profitez de la vie.
Ouais.
C'est bien ça. Ça c'est alors, personnellement.
Ça veut dire que vous êtes rentière, vous êtes...
Non.
Poleuse?
Non, pas du tout.
Juste tu fous rien quoi?
À peu près, voilà.
Prostituée?
Non, je fais du bénévolat à la SPA par exemple.
À la quoi?
À la SPA.
À la SPA. Voilà. Enfin, mais comment vous gagnez votre vie alors Dominique?
Non, ben, j'ai de la chance d'avoir un mari qui gagne bien maintenant.
Ah bah ben, voilà.
Ah, voilà, c'est son Pôle
je
emploi.
Pas
elle.
D'amour et d'eau fraîche non plus.
Il s'appelle Paul et c'est lui.
Ça, voilà, c'est ça.
C'est lui le Pôle emploi.
Voilà, exactement.
Et il fait quoi votre mari Dominique?
Ben, il est gendarme.
Ah bah ben, très bien.
Oh, c'est vrai qu'il gagne vachement bien.
Sécurité de l'emploi. Voilà. Ah, oui. Non mais sécurité de l'emploi.
En travaillant à la SPA avec un mari gendarme, on comprend mieux pourquoi tu profites de la vie toi putain.
C'est vrai que comme ça, ça fait rêver. Dominique va affronter Omar qui habite Paris. Bonjour Omar.
Bonjour l'équipe, comment ça va?
Bah, il a l'air en forme Omar.
Ah, bah, il est en forme, oui. Évidemment.
Ça va Omar?
La tu veux une blague, une blague de Lolo et Joujou, non?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie Omar?
Je suis directeur commercial pour une société d'achat groupé sur Internet.
Très bien, et tout se passe bien. Vous avez l'air d'avoir la pêche, en tout cas, Omar, c'est le cas de le dire.
Ah bah oui. Il faut d'avoir, en fait, et je suis très content d'être avec vous.
On ne fera pas de jeu de mots sur votre prénom et tout. Genre, vous avez un casier, Omar? Non, enfin, vous voyez le truc... Il y a Stevie qui en passe pour vous, Omar. Ouais.
Ah oui.
Eh ben, écoutez, je suis ravi.
Et quand il entend le prénom Omar, il dit Charif.
Charif.
Bah, Omar, si vous gagnez, ça sera le bouquet. Contre la petite crevette Dominique, qui elle est à Colmar. Bon, j'ai tout fait là. C'est terrible. Dominique contre Omar. Attention, voici la question qui peut-être vous emmènera au Vallon de Valrugue. Qui Marc Berdugo a suivi pendant 18 mois, 10 secondes d'avance sur les chroniqueurs? Qui Marc Berdugo a suivi pendant 18 mois?
Loana?
Non. Dominique,
une femme politique?
Ouais, ben, on sait pas.
C'est une femme politique?
Carla Bruni, évidemment. Oui. Bonne réponse collective. C'était facile, hein. On vous a laissé du temps en plus.
Ouais,
c'est terrible. Ça.
Bah Omar,
on est sûr que c'est pas une rumeur.
Non, non justement, Marc Berdugo l'a suivi pour un portrait qui sera diffusé ce soir. Enfin non, pas ce soir d'ailleurs, à la rentrée sur France 3. Naissance d'une première dame, ça s'appelle. C'est le titre de ce documentaire. On s'arrache, paraît-il, ce docu au marché des programmes audiovisuels parce qu'en ce moment il y a à Cannes, vous savez le
MIP.
Le MIP. Alors ça, faut peut-être expliquer ce que c'est que le MIP.
C'est un salon pour les professionnels de la télévision où les nouveaux programmes sont présentés, chacun achète celui qui a envie d'acheter.
Tu y es pas toi?
Si, bien sûr.
Ah, vous y allez?
Enfin, j'y suis, j'ai des programmes qui sont
par exemple, vous vendez quel genre de programme?
Ah oui, quoi, In Bed with Christine.
Alors, In Bed with Christine, ça intéresse beaucoup, personne, en fait, non. Non, moi, j'ai mon jeu sur comédie qui s'appelle Le cul, c'est
très intelligent, souvent.
Ouais, souvent, mais
la Frenchco.
C'est quoi?
C'est des Français en Normandie, c'est celui qui embrasse le plus de vaches, les gars.
C'est la suite de French Kiss. J'ai ce jeu sur comédie, j'ai les French Kiss.
Qui vous achète par exemple à l'étranger? Parce que ça, c'est un marché international.
Alors, j'ai un problème avec le jeu Le QCM sur comédie, c'est qu'en fait, il y a un canard vibreur géant qui est donc le symbole des sextoys en France dans le jeu. Et le problème, c'est que c'est un symbole uniquement en France. C'est-à-dire que les pays à l'étranger disent, mais on comprend pas pourquoi il y a un canard. Et en fait, il y a que les femmes françaises qui se tripotent avec ce canard. C'est très très
et
étonnant.
Et les femmes étrangères, c'est avec quoi?
C'est avec un truc.
Avec un homme. La pince gel douche.
Qu'est-ce que c'est?
Un support mural pour gel douche et shampoing qui maintient le flacon à l'envers. Plus besoin de secouer le flacon pendant 10 minutes quand il n'y a presque plus de produit, puisqu'évidemment, comme il est à l'envers, hop, tout coule directement.
Là, vous venez de découvrir ce qu'il y a dans tous les Formule 1 de France, hein, quand même. Hein.
Ah, merci Jean-Luc, parce que là j'ai l'impression qu'il redécouvre le fil à couper le beurre.
C'est quoi un Formule 1?
Non, mais il a des goûts populaires. Hein.
Mais moi, j'aime ça. Mais je savais que ça existait dans les hôtels, dans les piscines, dans les... Mais sauf qu'à la maison, je suis toujours là emmerdé avec mes gels douche que je mets par terre dans la douche.
Aussi,
parce que mon truc, il tombe tout le temps. C'est... Bon, faut que je vous dise que je prends beaucoup de douches par jour.
Oui, mais...
Bon. Donc, si vous voulez, j'en utilise beaucoup de gels douche. Donc, j'en ai plusieurs. Et donc, c'est trop lourd pour la petite plaquette qu'il y a dans ma douche. Mais donc, je les mets par terre. Et là, si j'avais ça, vous voyez, je ferais... Puis ça coulerait tout
le temps. Mais c'est ça ton problème, c'est ton gel douche qui est trop lourd. mais pourquoi prendre du gel douche? Vous ne connaissez pas le savon?
Ah non, okay,
mais le gel douche, c'est bien.
Ah, je suis sûr que tu te laves encore au gant.
Ah non, c'est pas vrai. Pierre Bénichou, tu utilises un gant?
Bah, ouais, moi, j'utilise un gant de toilette aussi.
Ah oui, c'est vrai, vous aussi. Ouais. Et vous avez des mouchoirs en tissu?
Non.
Tu te laves avec du tout papier toilette, toi?
Mais non. Papier toilette. Un gant de toilette.
Tu utilises un gant de
pour
toilette?
Pour le visage, oui, tous les matins, tous les soirs.
Pas tu pour mets, le visage, mais là, hein. Tu mets dans ton derrière.
Mais non.
Non, mais quand même, pour une fille, pour se rincer la foufoune, c'est mieux un gant de toilette que les mains, quand même.
Mais non.
Ah bah si.
Mais non.
Ah ben moi, je vais te dire un truc, si tu fais ça à la main...
Jamais, je te prends un gant de toilette.
Mais je vais te dire un truc, Pierre, si tu fais ça à la main, ta jouie, t'es pas encore rincée, hein, je veux dire...
Et au gel douche. En tout cas, le gant de toilette, pour le visage, y a rien de mieux, pardon de vous dire.
Reprenons des choses normales.
Voilà.
Pour le torse, par exemple.
Non, pas pour le torse, c'est le visage. Moi, j'aime bien avoir mon...
Moi aussi.
Je mets mon petit gel moussant Caudalie dans le creux de mon gant de toilette et hop là.
Ah, tu prends Caudalie?
Ah ouais.
Avec la vigne, l'esprit de la vigne.
En quoi c'est mieux que la savonnette?
C'est mille fois mieux, je vais te dire pourquoi.
Parce qu'il n'y a pas de poil de cul dessus.
Mais c'est pas vrai. Alors, attendez.
Là... Parce que la savonnette, quand tu la remets dans ce petit récipient, elle est mouillée.
Mais non,
c'est dégueulasse, ça fait des traces partout. Il y a des poils dedans, n'importe quoi.
Oui, mais le gel, c'est affreux, ça fait gluant.
Il n'y a personne qui va le réutiliser derrière.
Prends
vous.
Du lait.
Mais moi, de toute façon, il n'y a personne qui touche à mes affaires.
C'est gluant, mais n'importe
quoi. Je ne partage pas ma salle de bain, mais enfin, je veux dire.
T'as qu'à prendre du lait, Pierre. Pas du gel, du lait, ça c'est
pourquoi
très bien.
Je vais prendre du lait? Moi, je me lave au savon depuis que je suis petit, moi.
Ah oui, mais faut changer.
Avant, quand j'étais petit, il y avait du savon noir.
Le même très bon. Savon depuis qu'il est tout petit.
et après, t'as du savon de Marseille.
Je voudrais indiquer à Laurent quand même, quand vous dites que c'est dégueulasse la savonnette qui a des pas, ça se rince aussi une savonnette une fois qu'on l'a utilisée.
Oui, mais vous savez pas qui va l'utiliser derrière vous, avant
mais,
vous.
Mais qu'est-ce que c'est que cette folie de... Et alors quelqu'un l'utilise le savon justement. C'est
mais
quelque
vous êtes
chose
nombreux.
Qui n'est pas gênant à réutiliser derrière.
Puisque
ça s'en va. Bah il n'a pas de nature, le savon.
Non, il reste toujours un truc, un bout d'ongle.
Mais vous êtes nombreux dans votre douche.
Même quand vous allez dans les toilettes ou dans les salles de bain, dire c'est pas pour rien que dans les restaurants, tous les lieux collectifs, il y a justement pas de savonnette, mais du savon liquide que vous mettez dans le chronomètre.
Ah mais sinon les vols. Ça pue, c'est une horreur.
Mais non,
c'est parce qu'on la gaulerait, on la piquerait la savonnette.
Et le savon l'écolier, tu sais qu'il fallait branler un peu le savon.
Oh, petit ton.
C'était jaune et avec une forme de ballon de rugby.
Oui, il faut faire tac 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 tac. Plus mince, plus mince. Oui.
Mais c'est en vente, ça se revend.
Oui.
Parce que ça revient à la mode, je me rappelle. Là, oui. Ouais.
Non, puis moi j'aime bien les gels aussi, vous savez, qui exfoliants là, qui font.
Je déteste les trucs qui t'enlèvent un peu de peau. Non, mais toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir une peau satinée. Non, non mais sérieusement, tu sais d'où je viens, moi, d'Orient.
Et il y a des grains, puis après vous avez du mal à enlever les grains sur la peau, c'est trop bien.
Les grains. Moi, quand elles passent un doigt sur ma peau, les frangines, elles disent mais c'est du satin, monsieur Marcel.
Elle dit,
régale-toi, poulette, ça n'a jamais travaillé, ça. Mais c'est ça, la peau. C'est pas vos conneries françaises,
Mon papa qui travaillait sur les chantiers et qui revenait évidemment avec les mains souvent sales et noires, il utilisait, je sais pas si ça existe encore, le savon, ça décrasse. Vous vous souvenez, ça?
Non.
Ça décrasse, ça s'appelait. Le savon des ouvriers, le salon, ça décrasse.
Comment ils faisaient pour ces
ongles? Je connaissais la pâte à remarque.
Vous n'avez pas connu ça, vous?
Ben oui, évidemment. Ton papa, si tu avais vu utiliser des savons liquides, qu'est-ce qu'il t'aurait dit, tiens?
Écoutez.
Non, mais sérieusement. Non, mais c'est un truc de frangine, les savons liquides. Enfin, c'est pour Germaine Pfeiffer, là. Je sais pas comment il s'appelle.
Pas Germaine, Michel Pfeiffer.
Michel Pfeiffer. Non, je veux dire, tu mets ça comme ça, comme ça, avec une houe. Et quoi, et la crème à raser, tu la mets avec une houppette aussi. Non, mais ça va pas. Non, un bon savon de Marseille, un pote qui te tient le gant de toilette avant de te nettoyer. Et puis après, ça...
Trois
Trois jeunes Parisiens étaient en vacances du côté de Saint-Trope. Ils avaient embarqué sur un voilier. Et là, ils étaient en perdition du côté de l'Anse des Canoubiers. Pas très loin de là où vit Brigitte Bardot. D'ailleurs, des vents forts soufflaient sur le littoral. Je vous retrace un peu.
Magnifique.
On y est, l'actualité, vous
avec le ton, peut-être.
Des vents forts.
Des vents forts soufflaient sur le littoral.
Je fais les mouettes.
Sur la plage abandonnée.
Mais il n'arrivait pas à s'en sortir. Quand là est arrivé, non pas Zorro, mais qui est arrivé?
Un dauphin.
La gaffe avec son jet ski.
La gaffe sur son scooter. Bonne réponse de Titoff. Vincent Lagaffe.
Non, laisse-nous mourir.
Super-héros à Saint-Trope, l'animateur a porté secours à trois jeunes Parisiens en vacances. Il a aperçu cette embarcation en perdition et n'écoutant que son bon cœur, Vincent Lagaffe est intervenu. Il a attaché le voilier échoué à la navette de remorquage envoyée sur les lieux par le Cross Méditerranée de Toulon. Et ensuite, il a escorté les bateaux avant de repartir vers Cavalaire-sur-Mer où il vit son petit paradis, où il s'adonne à sa passion de
scout. Il paraît que pour le remercier, ils iront voir son film.
Faut qu'il trouve le cinéma. Hein. On a dit du mal de ce film de.
Alors qu'on l'a pas vu.
Le Baltringue. C'est bien que qu'on le voit en DVD quand il va sortir.
Ouais, j'aimerais bien. Parce que je suis sûr que ça vaut largement le film de Judith Godrèche. Vous voyez par exemple qui a été encensé par une partie de la presse.
Et en plus Judith Godrèche n'a sauvé personne.
Moi je veux dire, depuis que j'ai vu le film de Judith Godrèche, dès que je veux aussi, je trouve tout bon. Ah, mais vraiment, il y a pas. Aujourd'hui, je vais au cinéma, je suis heureux, je vois un film. Ça peut, je me dis, ah, ça, c'est pas mal. Alors, non, je vous jure. Hein. Donc, la gaffe, je suis sûr, c'est pas si mal. Il y a des idées préconçues. Il faut se méfier de ça. Et vous verrez, un jour, vous en souffrirez, vous aussi. Comme les autres.
Hein. Surtout qu'il prépare un scénario, j'ai appris, Eboué. Tu veux faire du cinéma, hein? Il ose pas le dire. C'est secret?
Il a son petit jardin secret. Gaffe.
Pardon?
Fabrice. J'ai fait une gaffe.
Pose une autre question, Laurent.
Mais pourquoi
je réponds pas aux questions de Gérard Müller. Moi, je travaille pour Laurent Ruquier.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il paraît que vous voulez faire du cinéma,
alors. Attention, je suis quand même dans le film de Michael Youn qui sort en mois de juin.
Ah oui, j'aime bien le attention.
Attention, il va falloir lui prêter un scooter des mers.
C'est lettre de noblesse, ça y est.
D'ailleurs, ça a marché son film, le dernier. Comment c'était? Le coursier.
Je sais pas, je sais pas dedans.
Non, je crois qu'il a.
Pas très bien.
Tiens, qu'est-ce qui.
On va changer de question.
Animateur radio, c'est quand même une question d'intonation.
C'est-à-dire
quand vous voulez vraiment montrer l'importance d'une question, vous insistez. Et alors, dans cette rue, il y avait des gens qui passaient. Vous avez remarqué ça?
J'ai jamais fait ça comme ça.
Si, si.
Enfin, peut-être, mais mieux, quoi.
Oui, c'est vrai. Et après,
dis-moi.
Les ordonnances, les médicaments que tu donnes à tes patients, tu les prendrais pas toi?
Question suivante. Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction?
J'ai pas compris la question.
C'est une centrale nucléaire.
Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction?
Les fesses d'Ophélie Winter?
Non.
C'est sexuel?
Non.
Ah, bah je trouverai. C'est un bâtiment?
Non.
Non, c'est un objet du quotidien.
Oui.
C'est un objet?
Oui.
Une passoire?
Non.
Une peau de banane?
Faut dire que jusque maintenant, si on a refait cette partie-là, parce que c'est une partie qui a été refaite, c'est parce qu'effectivement cette partie ne résistait pas à un usage parfois détourné de sa première
la queue,
fonction.
La queue d'une poêle.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec la queue d'une poêle?
Moi, rien.
Qui serait un usage détourné?
Comment tu t'en sers de manière détournée? Oui, c'est ça.
Attends-moi.
J'arrive à comprendre la question. Dis tout ce qu'il y a dans ma cuisine.
Ça, c'est pas dans votre cuisine, alors cherchez pas.
Mais alors, c'est sur le corps? Non, c'est pas
non,
le corps.
Non, c'est pas sur le corps. Non,
c'est chez les gens, quoi. On en a chez nous.
Non, on n'en est pas chez vous.
Non.
C'est industriel?
C'est industriel, oui, en tout cas c'est fabriqué.
Il y en a partout en France?
Partout en France, pas partout, mais en tout cas...
Je l'ai déjà tenu dans la main.
Il y en a dans le Vaucluse?
Dans différents points du territoire.
Il y en a dans le Vaucluse?
Dans le Vaucluse, sûrement, j'en sais rien.
Non, parce que je connais une copine dans le Vaucluse.
Des éoliennes?
Dans les grandes villes, en tout cas.
C'est un aliment?
Non. En tout cas, c'est particulier. À Lyon, il y en a, et c'est particulièrement à Paris que ça a été refait parce qu'il y avait un usage détourné.
C'est les bancs parce qu'on faisait du skateboard dessus ou quelque chose comme ça?
Non. Les horodateurs, les squares, les.
Qu'est-ce qu'on détournait?
Est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, Isabelle. Peut-être même que vous en avez déjà utilisé.
Elle s'en est servie de manière détournée, peut-être, Isabelle?
J'imagine bien, Isabelle, pouvoir s'en servir de manière détournée.
Ah, c'est un truc un peu vicieux. C'est des tickets de métro qui servaient à faire des accordéons quand on les
pliait. Pas du tout.
Oh, l'enfance malheureuse de Jérôme Bonatti.
Ah, les bouchons des litres de
vin consigné qu'on met sur les. Qu'on en fait des rideaux oui. Ou alors qu'on met.
Des rideaux en bougeant de vin.
Qu'on met sur les.
Les poubelles qui servaient à faire du skate. Non. Les caddies de supermarché.
Bon, c'est quelque chose qui est apparu depuis pas si longtemps.
Ah, les vélib.
Le porte-bagages.
Ah oui,
parce qu'on servait. Enfin, les gens s'asseyaient dans le.
Le porte-bagages, les gens s'asseyaient dessus.
Voilà, dans
exactement,
le panier
et la fourche qui va être plus épaisse que la précédente, car elle a été étudiée pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction, c'est-à-dire que c'est une façon marrante et élégante de nous dire, bah oui, voilà, les usagers avaient tendance à confondre le porte-bagages avec une selle de substitution pour le transport de passagers. Ils mettaient quelqu'un sur le devant, dans le panier. Et je vous vois bien dans le panier devant avec votre fiancée qui pédale.
Non, moi, on peut mettre un petit chien.
Est-ce qu'ils ont agrandi les paniers? Parce que moi, j'y arrive pas.
mais moi non plus, on peut plus, personne peut. Déjà que le vélib est lourd. T'imagines avec quelqu'un en plus dans le panier.
Ah ouais, il fait au moins 28 kilos.
T'es déjà monté sur un vélib ?
Oh non, j'ose pas. Ils sont sauvages, c'est seulement mon quartier.
En tout cas, là, il y a une deuxième génération de vélib qui va arriver, beaucoup plus solide que la précédente. Et alors, en plus, il y aura
Ils vont pas faire des vélib avec des moteurs ? Ça, j'aimerais bien.
Ah non, pas encore.
Il y a une petite carrosserie autour, comme ça.
Ça serait bien.
Et 4 places et un volant.
Ça s'appellerait
les autos.
En tout cas, c'est vrai que le panier, on voit souvent, moi, la nuit, on voit souvent des gens pédaler avec quelqu'un assis devant.
La nuit,
on fait n'importe quoi.
Avec qui est assis un peu sur le guidon et un peu sur le porte-bagages.
Oui,
moi, quand
ça,
je rentre chez moi, Michala qui est toujours dans le panier
Bien
devant.
Sûr, moi, je dors dans la largeur, je peux tenir. Moi, tu veux. Allons-y.
Reinhold Geiger est un homme d'affaires autrichien.
À vos souhaits.
Reinhold Geiger est autrichien et. Il vient de réussir quelque chose qui nous intéresse, nous, la France, en transformant sa société et surtout en la faisant coter à la bourse de Hong Kong. Introduction qui débute aujourd'hui. Mais de quoi s'occupe l'Autrichien Reinhold
C'est
Geiger?
C'est pas le PDG de Red Bull?
Red Bull, non. C'est vrai que vous avez raison. Bonne mémoire, Red Bull, c'est l'Autriche qui a lancé ça il n'y a pas longtemps.
Est-ce que c'est un produit qui porte un nom français qui se vend en Autriche, qui est rentré en bourse à Hong Kong?
C'est un produit qui porte un nom français qui se vend à Hong Kong, puisque ça vient de rentrer à la bourse de Hong Kong. Et c'est vrai que c'est un homme d'affaires autrichien qui dirige cette petite société basée en France.
Un parfum genre Gay Paris ou...
Quel parfum?
Gay Paris.
T'as inventé un nom?
Imagine que tu veuilles faire fortune avec quelque chose de français à Singapour, tu fais un parfum et tu l'appelles Gay Paris.
Ah non. Non, parce que c'est une marque qui existait déjà et que lui, finalement, a racheté il y a quelques années. Et qu'il a fait surtout...
Nicolas?
L'enseigne d'alcool?
Le caviste?
Non, pas le vin. Non.
C'est quoi, c'est des petits biscuits?
C'est alimentaire?
C'est pas alimentaire.
C'est le textile?
Lui, il a racheté ça en 95, Reinhold Geiger.
Est-ce que l'un d'entre nous autour de la table consomme ces produits-là?
Tout le monde connaît ça.
Tout le monde.
Ouais.
Et puis c'est pas alimentaire.
Non. C'est pas alimentaire.
C'est
de la crème à raser.
Non, plus de
mais
ça.
Mais non, excuse-moi.
Mais oui, tout le monde, tous.
Elle a des poils.
Bah non, moi j'utilise pas de crème à raser.
Bah
moi aussi.
Et bah vous devriez.
C'est vestimentaire, vous
Non.
C'est capillaire.
Donc lui, il a racheté ça en 95. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi?
Vestimentaire. Et elle a dit capillaire.
Capillaire. Non.
Ah, mais c'est.
C'est de l'huile à bronzer.
C'est des soins. C'est des
une usine à bérer.
Une usine à bérer.
Tout le monde porte des bérets, bien sûr.
C'est bien français. Hein.
Une usine à bérer. Alors, je veux dire, ça va faire un carton en bourse à Hong Kong.
Et puis, on en a tous un. C'est vrai, on s'est vu très souvent tous. Quand on se voit, chaque fois, on a un béret sur la tête.
C'est comme ça qu'on se reconnaît, d'ailleurs.
La caricature.
Quand on est sur le quai de la gare et qu'on part pour une émission en province, c'est à ça qu'on se reconnaît.
Bien sûr. Mais moi, j'en ai plusieurs, carrément. J'en ai plusieurs le matin, je sais pas quel béret mettre, tout ça.
Attendez. Vous dites qu'on en consomme tous.
Consomme, en tout cas. Au moins une fois dans votre vie, vous en avez acheté, j'en suis sûr.
C'est des lunettes?
C'est un produit qui fait fureur. Pour un Autrichien, c'est pas très bon, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il a réussi, cet Autrichien qui a racheté cette marque en 95, à transformer la société, qui est française au départ, et à l'implanter dans 80 pays dans le monde. Il y a même, je vais vous aider, 1517 boutiques.
Oh, ça nous aide.
Qui portent ce nom.
Oh, bah, ça doit être énorme, alors.
Ah, bah, c'est facile.
C'est du parfum, alors.
Ah non, parce que quand vous avez dit
Bougies galets.
Ça sent bon en tout cas.
C'est très français
c'est
comme
bougies.
C'est très français.
C'est des bougies, des bougies.
Il y a des bougies.
Du savon.
La fleur de rose.
Du parfum.
Il y a du parfum.
L'Occitane. L'Occitane.
L'Occitane. Bonne réponse de Titoff. L'Occitane. Tous, vous avez acheté au moins une fois.
Jamais. Moi, jamais. Je sais même pas ce que c'est.
C'est la marque de Provence, là. Tout le monde, ça marche.
Tout le monde, dès que tu veux faire un petit cadeau ou quoi, tu prends une petite boîte de bougies L'Occitane.
Ah non, c'est chiant ça. Non.
Ça pue.
Ah non, la bougie L'Occitane chocolat, j'adore.
Ah ouais.
Ça sent le chocolat dans toute la maison et tout. Mais il n'y a pas que des bougies. Il y a du shampoing, des crèmes. Ah non, vraiment. Puis en plus, les magasins sont jolis. On se croirait dans la province. Dès que tu achètes.
J'ai des Autrichiens.
Dans la province autrichienne,
ils te vendent de l'huile d'olive, les trucs à base d'huile d'olive.
C'est ça qui paraît. C'est curieux, effectivement, mais sauf que l'usine est toujours en France, le siège est à Manosque, ainsi que la principale usine, et il y a un deuxième centre de production qui a été ouvert en Ardèche, à Lagorce, donc ça se partage entre Lagorce et Manosque. Vous achetez, vous?
J'adore le parfum au citron, là.
Et c'est la bien. Folie des bougies, là, la folie des bougies depuis quelques années.
Bah oui.
Ah ouais, mais faut jamais acheter des bougies.
Des années pour inventer l'électricité, ce qui marche, c'est les bougies.
Non, mais des bougies senteurs, c'est pas bon, hein.
C'est pas bon.
Il faut surtout pas acheter de bougies odorantes. C'est pas bon, c'est un polluant d'intérieur.
Polluant d'intérieur.
Ah ben oui, parce que tu peux polluer avec tes produits ménagers, tu sais, ton pchit pchit là pour faire les carreaux. Ça va pas. C'est pour ça qu'il faut
le faire à l'extérieur. Il faut le faire dehors, quoi.
Je veux dire, pour nettoyer les carreaux, il y a rien que mieux qu'une éponge et du lave-vaisselle biologique.
Il y a rien de mieux qu'une femme de ménage.
Mais non, mais. Ah, c'est pas bon pour l'intérieur.
Moi, je pensais que c'était une marque que tout le monde connaissait. Alors,
c'est déjà connu, quand même.
Si, on connaît la marque.
Bah non, Stevie et Claude Sarraute déjà connaissaient pas.
C'est pas une différence. Oui, mais tu sais, je fais très peu de courses, alors je fais pas souvent de courses.
Il y a trois boutiques sur les seins, oui.
Oh, mais enfin, Stevie, quand même.
Mais c'est vrai, j'avoue, enfin, j'en ai pas vu dans ma ville, parce que moi, à Paris, c'est pareil, je sors pas beaucoup.
C'est l'Occitane, pas l'Excitant, je vous le dis, parce que si vous rentrez et vous demandez du popper, vous allez pas.
À la fraise.
J'aimerais une bougie au Jingle Juice. S'il vous plaît, mademoiselle.
C'est quoi ça, le jingle juice?
Bah, du poppers.
Ouais, t'es con, quoi. Alors...
Bah, comment? Ah, mais moi, je savais pas.
Vous connaissez pas ça?
Ah, bah, alors, jingle juice. C'est interdit à la vente, ça.
Non, c'est autorisé maintenant.
Il connaît pas l'Occitane, mais il connaît bien le quoi, jingle juice.
Bah, tout le monde connaît.
Bah, non, pas tout le monde.
Jingle juice. Vous êtes.
Et quel effet ça fait?
Enfin, moi, je sais pas, j'ai horreur de l'odeur. Ah. Je vais te dire, pour être honnête, parce que bon, on prend ça pour vous savez quoi, et moi, quand je prends ça et
attends,
je
attends,
fais.
Non, moi, je sais pas pourquoi.
Oh non, Claude, tu veux pas me faire ça.
C'est un dilatateur de scrotum.
Quoi? Ah ouais.
Et là, d'un coup, tu sais, autant un rire peut être spontané, autant un rire peut s'arrêter spontanément aussi, tu sais.
Autant un malaise se crée vite.
Voilà, ouais.
Je savais même pas que c'était pour ça, moi.
Ah bah, bah si, oui. Laurent.
Ah bon?
Non, mais là. Pour la faire monter. Mais non!
Non! C'est pour t'ouvrir l'arrière.
Non.
Non. Tous les capitaines de car ferry en prennent.
C'est quand la porte de garage n'ouvre pas bien, quoi.
Ouais. Non, mais c'est l'ouverture automatique.
Si ton garage est à l'avant, c'est con.
Mais l'odeur, quand tu fais l'amour, je trouve que ça donne mal à la tête.
Ah oui.
J'ai horreur de l'odeur.
C'est d'ailleurs pour ça que le groupe a été dissous, vous savez. Les poppers.
Isabelle.
J'ai jamais vu, moi, des rapports sadomaso.
Non plus.
Vous non plus, Isabelle?
Non, non, j'ai jamais eu ça. Moi.
On est un peu naïfs, nous.
Ah ouais, moi, tout le monde me raconte des trucs, des expériences sexuelles, pas possible. Moi, quand c'est juste un tout petit peu en dehors du lit, je trouve que déjà, c'est énorme. Il y a un rebord en bois autour de mon lit. Quand je me mets là, déjà, je trouve que c'est vachement. Vraiment, je connais pas du tout.
T'as une vision très chrétienne du sexe, en fait.
Je dois pas inspirer le truc un peu barge ou quoi.
Je dois pas que du classique, quoi.
Oh, ouais, puis de plus
une
en
fois,
plus.
Une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans le lit, quand même.
Oui. Mais de plus en plus, je dors maintenant.
Ah ouais.
J'inspire beaucoup le restaurant. Et le respect. Et une bonne bouteille de Bordeaux.
Ah voilà.
Et plus je vieillis, plus c'est le restaurant et la bouteille de Bordeaux, disons.
Mais il y a un endroit à Paris qui allie les deux. Il y a un endroit, une sorte de club qui fait et restaurant et club privé sadomaso.
Ah bah c'est là où Paul Vermus voulait nous emmener.
Exactement. Ah bon, il voulait nous emmener là-bas?
Eh oui, bien sûr. On attend toujours la soirée.
C'est très très bizarre parce que t'as des gens qui se baladent en slip en cuir au milieu du buffet, donc tu trouves des poils dans la terrine. C'est très très bizarre quand même. Non, c'est vrai, je vous jure.
Mais c'est
presque tous les clubs sadomaso, d'après ce qu'on m'a raconté.
J'adore.
Ah bon?
Mais oui, il paraît qu'à un club, on peut becquer. Oui, c'est bon. Oh la vache. Non, pas possible. Tu as une boîte de nuit, on peut boire même.
Ouais. C'est pas pratique de manger avec la boule dans la bouche, si.
Non, c'est pas simple. Mais moi, on avait bouffé là-bas un soir. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un mec.
Vous y êtes allé, finalement.
Ouais, j'y suis allé. Moi, j'ai déjà dîné là-bas, c'est pour ça que je raconte ça. Et il y a un mec à côté qui s'est fait. Qui a eu son baptême de suspension.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que tu manges et t'as un mec à côté de toi qui est en train de se faire saucissonner avec une corde. Il l'attache, les mains, les pieds. Et puis, il le soulève avec un système de poulie. Et le mec est accroché avec les mains dans le dos dans une position improbable. Et puis, il reste là-haut comme ça. Ça lui fait mal. Il est content. Ouais. Et t'as le taulier qui dit on applaudit la première suspension de Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Et toi, tu bouffes tes carottes râpées à côté.
Pourquoi on l'a pas fait descendre Jean-Luc Lemoine depuis? Parce qu'on
ne sait rien. Je ne sais pas. Pierre.
Non, une première suspension, c'est vrai que c'est bon.
Après,
ça perd un peu de son charme. Mais la première,
c'est la première qui vient.
Surtout quand tu dis reste comme ça.
Ah non, mais moi, alors pas du tout.
Reste comme ça, tes parents vont arriver.
Vous aurez remarqué le silence de Jérôme Bonaldi sur tous ces sujets.
Dès que c'est un peu vicieux, il veut pas s'aventurer là-dedans.
Il a peur que Lucienne lui file une danse.
Hein, mais on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Vu cette histoire incroyable, c'est quand même formidable le type de Nantes là qui dit c'est pas de la polygamie, j'ai simplement plusieurs maîtresses.
Bien sûr, un jour c'est un musulman, le lendemain c'est un baiser, le mec il fait ce qu'il veut quoi, c'est vraiment quoi.
Ouais,
c'est comme ça l'arrange
ouais.
Quoi, c'est vraiment
Bien sûr.
C'est une belle histoire quand même. Hein.
Oh, c'est joli.
Ça, ouais. Ça démarre par un PV pour une nana qui porte la burqa, elle aurait mieux fait de se taire et de payer les 22 euros.
C'est sûr.
Hein, franchement,
car elle descend dès qu'elle a demandé à faire une conférence de presse, que c'est elle-même qui a demandé à faire.
Mais c'est civil, pas de polygamie.
Ouais.
Bah oui. Bah heureusement, autrement tous les mecs seraient en tôle.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Si moi je dois être déchu de ma nationalité.
Déchoué.
Pardon ?
Il a dit déchoué.
Oui, il a dit déchoué. Bon, bah alors vous n'avez pas lui reprocher en plus de ne pas savoir parler français quand
oui,
même.
Oui, et tu veux pas que Laurent répète les mêmes. Ouais, et Fabrice s'appelle. Il ne s'appelle pas Ébu.
C'est vrai que dans Libération, ils l'écrivent tel qu'il l'a dit en mettant sic. Si on est déchoué, sic, de la nationalité, pour avoir des maîtresses, il y a beaucoup de Français qui seraient déchoués de la nationalité.
Oui, enfin, parce que oui, c'est. Il est un peu, enfin, si vraiment il touche des allocations familiales pour chaque maîtresse, c'est pas le cas de tous les mecs qui trompent leur femme.
Oui, et c'est plutôt le contraire, même quand on a plusieurs maîtresses, oui, normalement, ça coûte plus de pognon que ça en rapporte.
Exactement. C'est qu'il le compte en banque plutôt que de le renflouer. Non, mais ça se trouve, la fille, elle l'a fait exprès, elle en a marre qu'il la trompe à tout bout de champ et elle s'est dit, tiens.
C'est une occasion.
C'est une occasion de foutre la merde, quoi.
Bon, enfin, le gouvernement s'est avancé un peu vite, évidemment, dans cette affaire-là. On parle plus que de ça.
Moi, je vais me laisser pousser la barre parce que ça marche bien, vraiment, avec les femmes.
Regardez le succès de la Spalef.
Prends les burkas, ça gratte la barbe quand tu fais.
Non mais
visites.
Sérieusement, c'est quoi votre avis là-dessus, Jérôme Bonaldi? Tiens, ça m'intéresse.
Ouais.
Allez, Jérôme.
Mais je la connais, la boucherie halal.
Ah oui?
Ouais, à Rézé.
Ah, parce que c'est un monsieur qui tient une boucherie.
Oui, lui, il est propriétaire.
Ah, je savais pas.
Il est dans un quartier, voilà, quoi.
Le maire socialiste de Rézé, Gilles Retière, dit qu'il le connaissait bien, que ça fait longtemps qu'on savait effectivement qu'il avait une vie un peu dissolue. Enfin, c'est quand même, c'est vrai aussi en même temps, couillon d'un seul coup de se retrouver avec sa vie, alors quelle que soit sa religion, avec sa vie étalée dans tous les journaux, tout simplement parce que ta gonzesse s'est fait prendre un feu rouge, tu vois. C'est quand même.
En même temps, il l'obligerait pas à mettre une burqa, ça serait pas arrivé non plus.
Ah, ça c'est sûr.
Voilà. Mais il l'oblige pas, visiblement, c'est elle qui. Oui, enfin, c'est ce qu'elle dit.
Attends, mais il faut faire
quand
confiance.
Quand elle parle face caméra, elle dit que c'est elle qui a
traité. Est-ce que toutes ces je sais pas qu'on les appelait, maîtresses, ont la burqa?
Visiblement, d'après les articles que j'ai lus, oui.
Mais elles habitent toutes chez lui. Ils vivent tous sous le même toit ou pas?
Mais ça se trouve.
Non.
Il y a justement des gens qui disaient, on voit des tas de femmes rentrer, mais comme elles ont la burqa, ça se trouve, c'est toujours la même.
Oui, c'est comme. C'est comme les Polonais.
Et c'est le code de la route, hein, c'est pas la loi. Puisque c'est uniquement. Tu sais, quand t'es en véhicule, quand tu conduis, tu dois avoir une bonne visibilité. C'est au nom du code de la route.
À ce moment-là, Batman, il fallait l'arrêter depuis des années, je veux dire.
Mais tu peux te faire arrêter que si tu manges un sandwich au volant. Oui. J'ai une copine qui a fait ça.
Il y a une religieuse. À l'époque, il s'était fait aussi arrêter pour ça.
Oui, une religieuse avec la cornette, mais c'était dans un film de Funès.
Ouais, et puis elle jetait des citrouilles de sa bagnole, c'est pour ça qu'elle s'est fait arrêter.
Il y a deux chevaux, il restait plus que le.
Il y a une deux chevaux et deux roues.
Dans cette carte.
D'accord, je l'ai vu aussi, je la connais cette histoire.
Allez, baltringue. Qui commente l'info?
C'est ça la culture générale. Il y a des couacs.
Moi je t'ai cru, hein.
Mais peut-être c'est vrai aussi dans la vie, hein, j'en sais rien.
Oui, bien sûr, faudrait vérifier.
Ça pourrait. Moi qui ai porté un costume de bonne sœur dans un film, c'est super.
c'est super énervant parce qu'en fait on est assez coincé du cou.
Ah oui.
Parce que c'est, mais oui, il y a un truc.
Elles sont un peu coincées du cul aussi.
Mais moi, comme c'était un rôle, j'étais coincé que du haut. Et donc.
T'as pas fait ça comme à Michel.
Tu veux dire qu'on n'a pas réussi à t'imprégner du personnage de haut en bas.
T'as pas fait ça. T'as pas fait ça comme à Michel. T'as pas utilisé ton costume de travail.
Alors, ma vie privée, c'est ma vie privée, ok. Alors, non, mais c'est vrai que c'est
après
super.
Tournage.
Non, mais c'est super stressant. Donc, je suppose que même pour nos bonnes sœurs, ça doit être compliqué de conduire.
Comment vous appeliez sœur Michel? Mère Michel.
J'étais une mère supérieure d'ailleurs.
Et t'as gardé le costume à la fin du tournage?
Non, parce que franchement, c'est un drap qui est très dur. C'est pas agréable. Non, mais même pour rigoler et tout, c'est pas agréable.
C'est rêche.
Ah, c'est rêche. C'est chaud.
Oui, bah c'était pas fait pour faire du striptease. Non, j'aime bien. Vous avez l'air surpris. Non, c'est pas en soi, c'est pas super soyeux. Il y a pas de froufrou.
C'est pas très sexy.
Ouais, c'était pas.
Mais ça crée des fantasmes. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme copain qui m'ont dit
regarde Jérôme, hein.
Qu'est-ce que tu mettras quoi en dessous ta robe de bosseur?
Les mecs sont fous.
Jérôme, il est comme un dingue.
Il m'imagine en bosseur et tout ça, je le vois. Regarde la lésique.
Et alors, ça a duré combien de temps ce tournage? Alors, combien de temps vous êtes resté?
Un mois, tous les jours.
En bonne sœur.
En bonne sœur, oui, c'était rigolo. J'étais avec Sarah Giraudeau, qui était en bonne sœur aussi. C'était une histoire qui se passait pendant la guerre, où il y a eu, en fait, ça vient d'une histoire vraie, c'est un couvent qui a récupéré des prostituées.
Ah oui,
donc la mère supérieure a fait que des prostituées leur a filé des costumes de bonne sœur parce que elles étaient recherchées par les Allemands.
Par ce dialogue de la mère supérieure qui dit on va récupérer des protestantes, non, des prostituées. Ah bon.
Voilà, exactement, c'est pas loin.
C'est ça à peu près.
Ouais, tout à fait. Et donc c'est bien une histoire vraie, hein. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ces prostituées étaient.
Jérôme, il s'est évanoui là carrément.
Étaient recherchées par la police allemande et donc la mère supérieure a donc protégé ses prostituées en les faisant porter le costume de bonne sœur.
Bah, c'était la moindre des choses. Voilà. Ce sont des femmes quand même.
Bah, bien sûr.
Même si elles font se mettent à genoux pas que pour prier, c'est quand même des créatures de Dieu.
Qui est déjà allé dans un couvent faire une retraite?
Non, moi non.
Au bordel.
Quand vous avez commencé par qui s'est déjà mis à genoux.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Est-ce que vous connaissez Capoue, une ville italienne? Non?
Pas bien.
Non. Capoue, c'est finou.
C'est pas Capri, c'est Capoue. C'est une ancienne ville d'Italie du Sud, en Campanie. C'est là où Hannibal fut accusé de s'être endormi dans les délices de Capoue. C'est en 211 avant Jésus-Christ, tout ça, quand même. Ouais. Un peu d'histoire.
Ça nous rajeunit pas.
Et un peu de culture fait du bien, toujours, dans cette émission.
Ah, oui.
Je sais là que j'ai l'équipe pour. Et l'expression est devenue une sorte de proverbe aujourd'hui. S'endormir dans les délices de Capoue, tel Hannibal dans la fameuse bataille de Zaba après la défaite.
C'est tout ça le proverbe. C'est tout ça le proverbe.
Non.
C'est bon. Lors d'un dîner, tu fais oui, c'est un peu comme. Et tu finis le lendemain.
Ouais, mais Capoue est une ville qui a été reprise par Rome en 211 avant Jésus-Christ à cause de la défaite d'Hannibal. Hannibal s'était endormi dans les délices de Capoue.
Bon.
Et aujourd'hui, on réutilise cette expression dans la presse. Mais qui compare-t-on à Hannibal? Qui est en train de s'endormir dans les délices de Capoue?
Le président grec?
Non.
Berlusconi?
Non.
Un italien?
Non.
Un français?
Oui.
Sarkozy?
Non.
Un homme politique?
Un homme politique.
Français?
Oui. Oui.
Raymond Barre?
Non. Il est mort, Raymond Barre, depuis très longtemps.
Vous avez dit que Hannibal a perdu avec une défaite à Capoue, c'est
oui,
ça?
Oui, parce qu'il s'est endormi.
Il s'est endormi. Donc
c'est pas quelqu'un qui a perdu pour autant en politique pour l'instant. Mais qui pourrait perdre s'il s'endort dans les délices.
Il commence à s'endormir un peu. C'est un homme?
Donc c'est quelqu'un qui.
Un homme.
François Bayrou?
Non.
À gauche. Hollande?
Non.
Pierre Moscovici?
Non. Ah ben non, c'est DSK.
Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Et c'est au moins Jacques Lang qui a fait cette citation.
Non, c'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui incite Dominique Strauss-Kahn à se lancer dans la course dès maintenant, à dire officiellement qu'il va être candidat, parce qu'il dit qu'il perd du temps. Il faut savoir abandonner les délices de Capoue, et ça veut dire...
C'est pas une boîte de nuit qui s'appelle comme ça.
Ça donne cette impression.
Une gonzesse.
Ouais. C'est, nouvelle, c'est, d'Abou.
C'est sa nouvelle gonzesse, ouais. Capoue.
Capoue, Capoue.
Non, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire...
La vie à Washington est plutôt sympa et cool.
Voilà,
quoi.
S'endormir dans les délices de Capoue, ça veut dire perdre un temps précieux qui pourrait être avantageusement employé, s'amollir dans la facilité au lieu de se préparer à la lutte. Voilà. Et d'après Gérard Collion, le maire de Lyon, Dominique Strauss-Kahn, voilà, s'endort dans les délices de Capoue. Ça nous permet de connaître un peu d'histoire.
C'est
bien de s'adresser à la presse avec des phrases qu'il faut commenter pendant 8 heures, parce que personne ne les comprend. Non, mais il a raison. C'est joli.
Quand on est pro-ségolène, on est ségoléniste, mais quand on est DSKiste, DSKiste, Strauss-Kahnien, comment
est-ce qu'on dit ? Strauss-Kahnien, je pense.
Je peux continuer l'émission tout seul.
Non, Strauss-Kahnien, c'est plus le jeu.
Pourquoi vous posez cette question, Jérôme ?
Desquistes, est-ce que ça existe ?
Mais chez vous, il y a des aubristes aussi.
Il y a des aubristes.
Et oui, et des Hollandais.
Et des valsistes. Et des valseuses, pour ceux qui soutiendront Valls.
Ah, des valseuses.
Ouais.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Vous êtes en train de lire l'article sur DSK.
Mais il a peut-être intérêt à ne pas se faire remarquer, ces temps-ci, DSK.
Pourquoi ?
Bah, il pourrait être déchu de sa nationalité, je veux dire, maintenant avec la polygamie.
2010 se termine, mais ils reviennent en 2011 pour votre plus grand plaisir. Laurent Ruquier et sa bande dès lundi pour On va se gêner. Excellent réveillon à tous.